Nouvelle saison, je fais un jet de charisme pour savoir comment ça va se passer. Aïe, c'est un échec critique. John a perdu sa voix, Will a perdu ses mains et Vince a perdu son slip. Vous écoutez l'épisode 53 de Coop et Canap, le podcast qui fera mieux l'an prochain. Salut à toutes! Mais c'est pas vrai! C'est la saison 6! C'est la saison 6 de Coop et Canap! Bienvenue à tous! Quel plaisir de vous retrouver! Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas enregistré! C'est un véritable plaisir d'être de nouveau dans cette salle des associations d'Opio! Alors bon, c'est pas tout à fait la même, il y a eu un micmac, mais vraiment, c'est très peu intéressant pour le podcast. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la bande que j'ai avec moi! Salut Vince!
Et salut!
Salut John!
Et salut, salut!
Et salut Will!
Salut Nico!
Salut tout le monde. Alors comme vous le savez, hein, cette nouvelle saison est aussi synonyme de votre podcast fait peau neuve. Et comme il fait peau neuve, eh bien nous allons faire du coup un épisode toutes les deux semaines. En tout cas, on va essayer de le tenir. Donc un épisode cette semaine, puis dans deux semaines, puis dans un mois, etc., etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. On verra si on tiendra.
Ouais, j'espère que ça dure des années alors.
Oui. Ouais, bah, on touche du bois. Hein. Donc voilà. Donc du coup un épisode avec un conducteur un petit peu réduit aussi. Hein, pour pas vous abreuver de 3 heures
2 heures et demie toutes les 2 semaines.
Ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas grave, vous allez voir, on a quand même beaucoup à dire. Les copains, comment ça s'est passé cet été?
Eh ben écoute, c'est un bel été, chaud, il a fait chaud d'entre pas
il
cet
a fait
été.
Chaud. Mais c'est vrai, mais tu sais, on sait plus comment s'habiller. Bah si, enfin, ouais, si, en caleçon, en vrai,
ouais,
à poil. À
ouais,
poil.
D'ailleurs, j'ai perdu mon caleçon.
Mais c'est ça, bah tu vois, écoute, ça commence sous des très bons auspices. On va commencer cet épisode en faisant un petit peu tour de news, puisque une fois n'est pas coutume, le Nintendo Direct a eu l'élégance de se passer à quelques heures de l'enregistrement de l'épisode. On va faire un mini débrief, et il y aura aussi, bien sûr, d'autres news sur ce qui s'est passé cet été. On va parler, et c'est le gros morceau de cet épisode de Baldur's Gate 3, et ensuite, vous le savez, vos rubriques habituelles, bien sûr, il y aura le quiz préparé de main de maître par Vince. Qu'est-ce qu'on a ces deux prochaines semaines dans le viseur, et enfin, je peux pas, j'ai piscine, pour un épisode de rentrée, bien. Voilà, j'aurais pu trouver d'autres superlatifs, mais ouais, ça sera bien, mais c'est déjà pas mal.
Il est bien.
Il est bien cet épisode. En tout cas, il est déjà très très chouette. Est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode, donc 53 de Coop et Canap?
C'est pas le 52?
Non, 53.
Wow. Allez,
c'est parti.
C'est quelle saison?
6, ça c'est sûr, je l'ai vérifié ce matin. Et les news, bien sûr, place à l'actu, place au direct. Alors, c'est vrai que...
Plateau Nintendo Direct.
Nintendo Direct, oh, merde, j'aurais dû prendre la
tangente. Hein.
Place au Nintendo Direct, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, effectivement, une fois n'est pas coutume, ce jeudi après-midi, un petit Nintendo Direct. Un Nintendo Direct, d'ailleurs, qui porte bien son surnom de Nintendo Direct fin de vie de la Switch édition, puisque on a eu des remakes, du fond de catalogue, mais tout de même, quelques petites annonces sympathiques. Alors,
j'ai hâte de savoir.
Oui, eh ben alors, vous savez, avait été leaké juste avant le direct le fait qu'il y aurait la présence de F-Zero. Alors F-Zero, c'est vrai que moi je m'en fous un peu, j'y ai joué sur GameCube à l'époque, mais il y a une grosse communauté qui attend à tout prix le retour de F-Zero, etc. Bon, c'est plutôt logique. Eh bien écoutez, Nintendo, qui a décidé décidément de décevoir systématiquement sa commu F-Zero, a décidé de sortir une sorte de reskin du premier F-Zero sur NES, en mode Battle Royale. Donc c'est un F-Zero 99, une sorte de Battle Royale dans lequel, eh bien, si vous vous faites trop attaquer, trop machin, ben vous quittez la course et il y a 99 joueurs. La tristesse, c'est vraiment le fait que ce soit un reskin de la version Super NES, ce qui est assez laid pour aujourd'hui. Donc, un petit peu en demi-teinte, j'ai quand même envie de l'essayer parce que l'idée n'est pas si mauvaise. Hein.
Oui, et puis bon, on sait très bien que tous les jeux Nintendo...
Voilà, ça y est, je l'attendais de toute façon, voilà, la saison ne pouvait commencer que comme ça. Et en plus, je vais te donner tort, puisque regarde, il y a eu un jeu Riot qui m'a vachement tapé dans l'œil, 100% hype par ici, qui s'appelle donc Bundle Tail. Bundle, c'est un personnage.
C'est la région des Yordle, genre Timo et tout là.
Voilà, exactement. Et ben du coup, c'est un jeu qui va se passer justement dans cette région-là, qui est un peu une sorte de. Ça a l'air, en tout cas, hein, on a vu vraiment qu'un trailer de 2 minutes. Ça m'a tout l'air d'être une sorte de jeu de craft où tu montes un peu ta boutique, tu vis un peu avec les gens autour et tout. Ben ouais, avec un peu des missions, avec un peu des trucs comme ça. Ça avait l'air super chouette. C'est une très belle tronche de jeu GBA, mais pas péjoratif. C'est une belle tronche de jeu GBA.
Ça tournera sur Switch.
Ça tournera sur Switch. Ça tournera aussi sur PC, hein, puisque ça sera pas exclusif à la Switch. Et pour le coup, ça m'a carrément convaincu. C'est aussi, sans doute, en grande partie, parce que c'est des îles dans le ciel. Et moi, bon, les îles dans le ciel, globalement, c'est 90% du taf est fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus grand chose pour me convaincre.
Du golf, peut-être.
Du golf dans des îles dans le ciel, là, mon pote, je m'évanouis. Je pense que j'implose. Et une petite der quand même si effectivement, alors il y a eu en fin de direct, et c'était le One More Thing, et c'est là où je vous dis que c'était vraiment un truc de fin de vie. Le One More Thing, c'était un remake du Paper Mario sur GameCube,
oui,
qui avait même pas l'air d'être beaucoup plus joli, quoi. Enfin, c'était ouais juste le Paper Mario sur GameCube qui était déjà très bien, très beau, tu vois. Bref, pourquoi pas. Mais il y a eu quand même un remake du Mario versus Donkey Kong de GBA. Je sais pas si vous connaissez cette licence là, Mario versus Donkey Kong. Non, ça va. Mario versus Donkey Kong, c'est un jeu un peu, on va dire, énigme plateforme en 2D, vu de côté. C'est pas trop mal en vrai. Pourquoi pas. Moi, le truc, c'est que je l'avais soudé sur Game Boy. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de le refaire? La réponse est très rapidement non, quand même. Mais voilà, c'était la seule annonce entre guillemets qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et encore pas trop.
Non, parce que si ça c'est l'annonce qui t'a tapé dans l'œil,
pour te dire à quel point c'était d'une tristesse. Et en même temps, on le sait, il y a eu la Gamescom où ils ont présenté la Switch 2 Behind Closed Door. On sait qu'il y a des gens qui ont vu la Switch 2. Donc voilà, ça arrive d'ici un an.
On l'a vu, on le dit pas.
Nous, on n'a pas le droit de le dire malheureusement, mais oui, on l'a vu tourner, bien sûr. Je l'ai eu en main. Alors ça fait tourner des jeux GameCube maintenant. Ouais. C'est vachement bien. Non, mais voilà, on sait que c'est la fin de vie. Bon, voilà, essayons de l'accompagner dans la dignité et de se dire voilà.
C'est une vieille personne maintenant.
Voilà, c'est ça.
Un peu de respect.
Un peu de respect. Mais voilà, la mamie Switch. Un petit coup de rétro du coup, John, sur.
Attends,
tout ce qui
est-ce que je peux me permettre de souligner du coup?
Oui.
Pas de Silksong donc. Voilà.
Ouais. Par contre, ce soir à 22h,
c'est quand?
Il y a un
PlayStation Direct.
Il y a un PlayStation Direct, mais plutôt axé sort party et indé. Eh, ils sont tous à fond.
Voilà. Ouais. Non, mais bien sûr. Non, j'étais déjà à fond pour Nintendo Direct. Mais là, je suis à fond. D'autant que Unity, vous savez que Silksong est développé sur Unity et que les développeurs qui tournaient sur Unity ont eu quand même une très désagréable surprise dans leur boîte aux lettres ce matin. Will, tu veux peut-être nous en parler un petit peu plus?
Oui, c'est ça. En fait, l'entreprise donc derrière Unity, hein, c'est donc le moteur graphique où il y a plein de jeux, hein, qui tournent dessus. On a quoi? On a
Hollow Knight, Silksong,
Pokémon Go, Ori and the Blind, Forest, Hearthstone. Hearthstone tourne sur Unity, je savais pas.
Genshin Impact.
Enfin voilà, il y a plein de jeux qui tournent sur Unity.
Oui. Non, mais c'est là où ça devient intéressant.
C'est un des moteurs les plus utilisés. Et en fait, ils vont imposer une nouvelle taxe aux développeurs qui utilisent leur outil. Mais surtout, le problème, c'est que ça menace vraiment l'équilibre financier, surtout pour les petits studios. En fait, il y a une sorte de notion maintenant de facturation par installation.
Ouais, ça c'était.
Et le pire, c'est qu'en plus, c'est en fonction de combien de gens ont installé. À partir de 200 000, tu peux utiliser le Unity gratos. À partir du moment où tu as 200 000 personnes qui ont installé, hop, tu passes sur le palier au-dessus. 1 million, tu passes sur le palier au-dessus et les installations sont peut-être de moins en moins chères. Mais du coup, quand tu es à 200 000 installations, ce qui peut arriver rapidement, tu te fais 20 centimes, je crois, par installation.
C'est 20 centimes par install,
ouais. Et aussi, il y avait un peu des règles débiles. C'est-à-dire que quelqu'un qui désinstalle, réinstalle, deux installations. Ça, ils ont fait un petit communiqué. Bon, ça, d'accord, on va l'enlever. Mais si quelqu'un installe sur Xbox, sur PC, sur Stream Deck, ça restera. Toi, tu l'installes sur Steam et Steam Deck, deux installations.
Quelle honte.
Si des gens l'installent gratos via le Xbox Game Pass, facturé. Ouais. Et ça, ils ont dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est Xbox qui va payer.
Oui,
Xbox, ils n'ont pas répondu encore. Hein.
c'est genre, nouveau
tech,
c'est qui?
Ils vont dire, pas de soucis, on prend en charge. Par contre, l'abonnement
c'est ça.
À 1 euro plus cher.
Et Microsoft, ils vont dire, c'est qui eux? On achète.
Ouais, c'est ça. Allez hop.
Donc en fait, t'as plein de studios qui sont un peu relevés. T'as Megacrit, ceux qui font Slay the Spire, hein, qui ont dit, en fait, on va juste, en fait, ça fait 2 ans qu'on bosse sur un jeu, on va tout jeter, on va passer sur un autre moteur, quoi. Si vous faites pas marche arrière, c'est un peu des menaces. passe, ou t'as Cult of the Lamb, j'adore le tweet de Cult of the Lamb, ils ont dit télécharger le jeu maintenant parce que bientôt il sera plus sur les stores. On annonce, ouais. Ils vont l'enlever des stores.
Ah oui.
On se défend comme on peut. Enfin, ouais. Il y en a qui ont mis, quand même.
Il y en a, ils ont dit, il y aura que 199 copies en vente.
Oui, c'est vrai aussi, j'ai vu ça.
Pour la blague. Ouais. Non, mais sinon, il y a ceux que je suis beaucoup, Alchemy Studio, qui ont fait Four Tales.
Oui.
Et là, ils ont sorti leur Early Access sur leur nouveau jeu, Anankou, qui est une sorte de Survivor. Et en fait, ils ont pas mal commenté ça. Ils disaient, bah ouais, nous, on dev sur Unity. Ça nous coûte déjà une blinde à l'année. Parce qu'en fait, pour avoir déjà plusieurs développeurs et avoir accès à une version pro Unity pour plein de features en plus, ils ont payé déjà une blinde. Ils fait, tu vas pas me prendre 20 centimes parce que j'ai un jeu à succès, tu vois. Ils ont, vous paye déjà une blinde et vous faites des milliards grâce à ça. Et voilà. Non, mais genre, ils étaient tellement vénères tous sur Twitter. Mais là, alors, ça fait deux jours que...
Faut voir un truc, c'est que le patron de Unity, c'est le patron, à l'époque de Electronic Arts, c'est celui qui a intégré dans FIFA les lootbox. C'est grâce à lui qu'on a des lootbox dans FIFA, tu vois. Non, donc c'est un mec, c'est un chien de la casse.
C'est à dire que tu vas arriver, tu vas regarder les résultats d'Unity après cette année. Non, ça fait chier tout le monde, mais ils vont juste... Oui,
absolument.
Donc tu te mets à la place des actionnaires de Unity.
Et en parlant d'actions, il y a une semaine, qui sait qui a vendu un paquet d'actions de Unity ? Ben, le boss de Unity.
Voilà, juste avant cette petite annonce.
C'est bizarre quand même. Genre le mec, il a vendu des actions, et après, une semaine après, il y a des annonces dégueulasse, tu vois. Genre.
Ouais, voilà. Non, mais c'est
chaud, c'est vraiment des bonnes personnes, là, donc, qui gèrent tout ça.
On va voir un petit peu comment ça évolue, parce que je pense qu'il va y avoir des machines arrière. Il y en a déjà eu, parce que la news est tombée, genre, hier, je crois. Ouais. Il y en a déjà eu dans la journée d'hier. Il y en a eu encore ce matin. Je pense que petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre, surtout que, en fait.
C'est un peu le même principe aussi, tu vois. On va annoncer des trucs d'enfoirés, comme ça, bon. On va passer pour les gentils parce qu'on aura diminué le truc, mais c'est comme de la négoce, quoi. Tu annonces des trucs de fou comme ça.
Game Maker, par exemple, l'autre, un peu les concurrents, ils ont dit que, en fait, ils offraient les licences à ceux qui venaient de Unity avec une option de portage de Unity vers leur truc. Ah, si. Non, mais voilà. Tu vois, enfin, au final, voilà, nature is healing, hein. Les gens, voilà, le capitalisme ne vaincra pas. En tout cas, on n'espère pas. La suite au prochain épisode, sans doute. John, toi, tu vas nous faire un petit tour sur tout ce qui a été oublié cet été. Un petit peu les morts au combat de Baldur's Gate 3 et Starfield, etc.
C'est exactement pourquoi. Parce que au mois de juillet, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils partent en vacances, ou alors ils ont moins de temps, ils ont envie de... Il fait chaud aussi. Donc, t'as tous ces petits... Surtout les petits indés qui sortent et qui sont passés à la trappe. Surtout à cause d'un Baldur's Gate 3 qui sort plus tôt que normal. Non mais
le bon move de l'été quand même, hein. Le sortir un mois avant Starfield pour qu'il se fasse
le plus beau move de l'été, et ils ont raison. Non, parce qu'il y avait quelques jeux qui me faisaient de l'œil à l'époque, et puis je pense qu'ils vont être un peu dans le backlog à force, et je vais tenter de temps en temps. Mais tu vois, il y a par exemple Oxenfree 2.
Oui.
Voilà, ça reste quand même pas mal d'indé, mais en fait, c'est pas mal parce qu'il est sorti, il fait partie du catalogue Netflix. Beaucoup ont accès à Netflix, donc en fait, si tu l'as, tu peux y jouer sur ta tablette, sur ton téléphone, ou après tu le télécharges sinon sur ton.
Oxenfree 2, c'est un peu Stranger Things 2. Le jeu narratif.
Ouais, c'est clairement Stranger Things en narratif. Après, il y avait un autre jeu que j'avais bien aimé. C'est plus pour toi, Nico, je t'en ai parlé, je crois. Venbass, c'est un jeu où tu fais de la cuisine.
Ah oui.
En mode très chill, et ça se passe dans une famille indienne, et donc en fait, tu cuisines des plats indiens. Et avec vraiment un système de manipulation des plats, des ingrédients et tout. Et tu fais ta petite cuisine très chill. Apparemment, c'est très court, mais genre le truc le plus chill au monde qui te donne envie de bouffer. Mais genre, j'ai testé la démo et je me suis dit, ouais, j'ai envie de bouffer un diable.
Non, et puis en plus, c'est sur le Game Pass, ça dure 1h30. Je pense qu'un de ces quatre, je me le ferai, tu vois, en une pause midi.
Ouais, cool, ça, c'est, ça donne envie. Et un autre que j'ai et que je me suis dit un jour je me ferai peut-être en stream, c'est, je pense que ça doit pas durer longtemps, ça s'appelle World Factory. C'est un peu stylé, j'aime bien le concept, j'avais fait la démo. C'est en fait, bon, tes niveaux, c'est des damiers, et en fait t'as des structures que tu mets, en fait tu crées ta petite usine mais de mots, de lettres, et en fait tes usines elles fabriquent que la lettre I, et grâce à d'autres usines, d'autres machines qui peuvent tordre les lettres, croiser les lettres, fusionner les lettres, fusionner la lettre I, elles vont créer d'autres lettres. Donc en fait, voilà, si tu tords la lettre I vers la droite, ça fait un C. Et donc après, tu peux créer la lettre C comme ça. Et en fait, ils te demandent de...
C'est l'énigme.
Hein?
C'est énigme.
C'est un jeu d'énigme, mais c'est aussi un jeu d'usine, en fait, de factory.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est les deux en même temps. Faut optimiser ses trucs, gérer sa petite chaîne de production. C'est à bas level. Mais genre, j'avais trop kiffé la démo. Je me dis, faut que je me le fasse à un moment sur le Steam Deck, posé, posé sur les toilettes. non, ouais, il y avait ça. Et il y avait aussi Shadow Gambit.
Ah oui, alors
Shadow
c'est
Gambit,
vrai.
Shadow Gambit par ceux qui ont fait Shadow Tactics ou Desperados 3. Oui. Et ça, c'est plus un truc pour toi, oui.
Ouais, j'avais déjà essayé. C'est du
bien
tactical,
aimé
mais
3,
un
ouais.
peu très... très,
très orienté infiltration.
Infiltration,
ouais,
quoi.
C'est ça. Et en fait, je voulais aussi en parler parce que c'est le dernier jeu du studio.
Ah ouais.
Le jeu a dit, bah, maintenant, on ferme. Ouais. On n'a plus les moyens, on ne peut plus tenir. Et ben voilà, ça, c'était notre dernier jeu. Le jeu, il sort en mois d'août. Et un mois plus tard, ils font, bah, par contre, on ferme parce que c'est mort.
Ouais.
C'est mort pour nous. Je fais, waouh. C'est...
Ouais, c'est très dur.
Coup dur, alors que tu dis, bah, leur jeu, c'est niche, mais reconnu. Enfin, tu vois, genre, c'est...
Ouais, ouais, c'est...
C'est genre de tangente.
Ouais, je pense que financièrement, c'est pas des énormes succès commerciaux, tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est niche. Et pourtant, j'avais joué à Desperados 3 un petit peu. Et franchement, c'est très, très quali comme jeu. Hein. Franchement, c'est... Et un dernier. Alors, je vais parler de Sea of Stars, même si voilà, il est sorti cet été, il s'est un petit peu fait clipser, mais en fait Sea of Stars apparemment c'est très très. Tu as joué toi ?
Non, pas encore. Je,
non
je garde ma
prochaine.
Ouais, dans voilà. mes 5 prochaines heures de train.
Mais sorti nulle part. Même moi, je savais pas qu'il était sorti alors que j'ai joué à ce précédent. C'est Trine 5. Je sais pas. Vous connaissez Trine ou pas ?
Bah oui.
C'est des. Ouais non.
Non.
Tu connais
c'est un
peu alors c'est un,
Rayman
c'est un jeu de plateforme,
de
c'est un,
ouais, voilà.
c'est un
ouais.
jeu de plateforme un peu énigme et en fait tu peux jouer à plusieurs en coop où chacun va jouer un personnage différent. Il y a un mage, un guerrier et un archer. Et en fait et donc t'as à la fois des ennemis à combattre et des énigmes à résoudre en fonction des pouvoirs de chacun. Le guerrier il est plus bourrin, il peut foncer dans le tas. Le mage il peut créer des objets, des plateformes, des cubes, des trucs comme ça. Et l'archer il peut à distance bon bah buter ou déclencher des trucs. Et j'avais beaucoup aimé Trine 1 et 2 et le 3, le 4, je sais même pas qu'il est sorti, et encore moins le 5. On me dit, mais purée, mais.
J'avoue. Moi, je t'ai resté bloqué au 2. Voir
non, mais quoi. C'est ça. Bah, ouais. J'avais fait le 3, mais qui est horrible. Et c'est pour ça que je m'étais arrêté. Donc voilà, en fait, c'est sorti là, mais tous éclipsés par Baldur's Gate 3.
Ouais.
On se demande pourquoi.
Eh bien, justement, pourquoi est-ce que ça a été éclipsé par Baldur's Gate 3?
Hein, pourquoi?
Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la critique. Les musiques elles mettent un peu de temps à démarrer donc.
Alors on était obligé un peu de parler de Baldur's Gate 3 hein, vu le bruit qu'il fait.
Et puis surtout et parce qu'on y a beaucoup joué.
On y a beaucoup joué hein, et pas
enfin,
parce qu'on est.
Vince, mais...
On est peut-être sur le jeu de la décennie. Alors. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est-à-dire qu'on est sur du 96 sur Metacritic, on est numéro 1 sur Open Critic. Ça a cassé le record du nombre de joueurs simultanés sur Steam à la sortie.
Ouais.
875 000 joueurs connectés en même temps sur Steam. Enfin,
pour un jeu solo, en fait.
Ouais.
Parce qu'après, tous les jeux multis,
oui,
voilà.
etc. C'est
mais
même,
un
a,
solo,
mais même
c'est
ça tourne à 1,3 million, tu vois. Mais
ouais,
c'est
ouais,
pour
c'est
un jeu solo.
Et même sur PS5, où il vient de sortir il y a une semaine... Bah, il a pété les records enfin en termes de notes ouais. devant je sais plus lesquels.
Surtout qu'on ne s'attendait pas à une telle hype enfin pour un jeu de ce style-là. Pour rappel en fait Baldur's Gate c'est déjà Baldur's Gate en lui-même c'est une licence emblématique mais c'était une licence des années 98
ouais,
c'est 98-99
hein.
Baldur's Gate 1 2
moi j'y ai jamais joué hein. Je me ah ouais. souviens en fait je regardais mon cousin y jouer en me disant putain c'est trop compliqué, il y a des trucs
qui étaient très compliqués. Je me rappelle sortir de la ville de Baldur, je rentre dans la première tour que je trouve parce
ouais,
que j'avais un mec qui pouvait crocheter, j'aurais jamais dû. Il y avait un golem de chair ou je ne sais quoi, il m'a éclaté mon personnage principal, genre il a éclaté en petits morceaux, tu peux pas le ressusciter. Bah j'ai arrêté le jeu.
C'est ça, en plus vu qu'il y avait
tout le monde à son
qui sortait, j'avais réinstallé le 1 et le 2 et même moi là maintenant trop
ouais.
compliqué. En plus, c'était pas trop guidé et tout. C'est vraiment un côté
ouais,
jeu de rôle.
C'est chaud pour l'époque. Hein. Mm. J'avais joué aux deux beaucoup. Mais
j'ai un souvenir de mon cousin, mais qui, à chaque fois que j'allais chez lui, il jouait à ça. En plus, on retrouve des personnages, on y reviendra, justement, des premiers Baldur's Gate, Minsk et Jaira, qui sont des personnages emblématiques des premiers Baldur's Gate. Mais ça reste quand même niche. On parle d'un jeu des années 98. Donc, bon, jusque-là, c'est une suite de ce jeu-là. Par contre, après, c'est qui le studio qui fait ça? C'est Larian Studio. Et c'est quoi? C'est la licence Divinity.
Ah oui.
Qui, pour moi, est le meilleur tactical RPG, hein, Divinity Original Sin 2, sans contexte. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai
jusqu'à présent, du coup.
Sans quoi?
Jusqu'à présent.
Sans contexte.
Sans contexte aussi.
Hey, tu nous avais manqué, oui.
On n'a pas le contexte de la phrase.
Donc, et ce qui est marrant, en fait, c'est que Larian Studio avait déjà essayé d'avoir la licence Baldur's Gate et Donjons et Dragons. J'ai pas réussi à retrouver l'article. J'ai cherché pendant deux heures.
Depuis le 1.
C'est ça. Mais en fait, ils ont les mecs de Donjons et Dragons, ils ont regardé, vous êtes qui vous?
Ouais, c'est ça.
Sauf qu'après, ils sont venus, ils ont fait Divinity Original Sin 1 et 2. Bon, ok, on va peut-être les écouter, ceux-là. Parce que justement, les 1 et 2, c'était des jeux sur Kickstarter qui avaient fait un carton. Et c'est un des jeux qui s'est le mieux vendu, Divinity Original Sin 2. C'est très long à dire. Donc là, voilà. Donc c'est un des meilleurs studios au niveau des tactical RPG qui part avec des licences emblématiques RPG. Tu te dis, waouh, ça peut être que trop bien. Mm. Mais les gens qui se disent ça, c'est des gens comme moi.
Mais exactement.
C'est des gens qui aiment bien les tacticals, qui ont entendu parler de Baldur's Gate. Genre, pas 875 000 personnes.
Et en fait, c'est ça qui est d'autant plus impressionnant dans le succès du jeu. C'est que, Divinity Original Sin 2, tout le monde dit que c'est très bien et tout. Mais comme tu dis, les gens qui s'intéressent au truc.
Qui c'est qui a joué sur cette table?
Ben, toi.
Voilà.
Moi, j'ai jamais joué. Ben non, mais enfin, j'ai joué.
T'as pas joué à Divinity? Et qui c'est qui a joué à Baldur's Gate 3? Voilà, il y en a trois fois.
Ouais, mais il y a un truc, c'est que, en fait, les rôlistes, enfin ceux qui sont, on va dire, surtout fans de Donjons et Dragons, ils ont pas forcément joué à Divinity.
Ouais.
Mais par contre, ils ont beaucoup joué à Baldur's Gate 1, 2, et en fait, t'as des ultra fans hardcore. Alors, c'est pas des centaines de millions, mais il y en a quand même beaucoup. Et après, ils ont eu Neverwinter Nights, qui les a remplis, le 2 aussi. Après, il y a eu d'autres jeux, et après, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus rien.
Ouais, c'est vrai.
Sur la licence Donjons et Dragons, ça fait 20 ans, parce qu'après, c'était des hack and slash dégueulasses. Ouais. Ils avaient pas de jeu qui leur rappelait le jeu de rôle sur table.
Ouais, c'est ça. Mais
et là, les mecs qui débarquent avec la licence, c'est pour ça que.
Est-ce que tu crois que le film Donjons et Dragons qui est sorti juste avant a permis de monter la hype?
À 0%, Vince.
Non, parce qu'il n'a pas marché.
Ouais, voilà,
et j'en parlerai à la fin.
Non, mais c'est ça. Donc tu te dis peut-être que l'Arène Studio va gratter des gens, des fans de Donjons et Dragons, des jeux de rôle, mais pas à ce point-là, quoi. Donc c'est.
Ouais, y en a.
La mayonnaise a pris de fou. Et comme je dis, t'as toujours cet effet où t'entends les gens qui disent que c'est bien. Du coup, les gens disent que c'est bien. Tu vois, t'as une sorte d'effet
bien
boule
sûr.
De neige.
Moi, j'ai pas joué, je suis persuadé que c'est bien. Voilà.
Ah, non, mais
voilà.
Et après, en même temps, on va y venir, c'est très bien.
Tu sais, t'as aussi un truc là depuis le Covid. T'as une hype du
jeu de rôle sur Twitch.
En fait, le Donjon et Dragon revient grâce à. Ben, en fait, les gens se sont rassemblés pour faire du jeu de rôle à distance et sur Twitch. Et je pense que ça a aidé.
Ça, pour le coup, ça a
au fait
appuyé.
Que les gens disent non, mais la licence Donjon et Dragon, on peut faire un truc cool. Et là, on a l'Ariane Studio qui te fait un jeu de base cool. Et là, il y avait le Baldur's Gate 3. Et je dis, ouais, c'est bon.
Surtout que je me rendais pas compte que Donjon et Dragon, c'est vraiment une institution. Au niveau des règles, au niveau du truc, c'est un livre de règles. Là, ils se basent sur la cinquième édition, mais t'as la sixième édition, sachant qu'ils ont fait des variantes. Il y en a qui sont arrêtés à la troisième, ils sont arrêtés à la troisième parce que la quatrième est révolutionnée un peu trop le truc. Il y a vraiment
mais
des
3.5.
Voilà, exactement. Après
la
3.5, voilà, maintenant, il y en a, la 5, j'aime pas. Moi, je reste sur la 3.5. Il y a vraiment ce genre de truc-là. Donc voilà. Parlons un peu du jeu Baldur's Gate 3. Je vais parler un peu scénario, mais. En fait, ça démarre juste par vous qui êtes enfermé dans une sorte de vaisseau de flagelleurs mental, des sortes de Cthulhu. C'est des Cthulhu. Ils ont les petites pierres,
les tentacules.
Tentacules au niveau du menton. Et on vous insère un verre à travers l'œil pour qu'il vienne, dans votre cerveau. En fait, là, la cinématique, déjà, elle vous fait bien flipper. Et en fait, le vaisseau se fait attaquer par des énormes dragons. Déjà, la cinématique du début est vraiment pas mal. Le vaisseau se fait attaquer, vous arrivez à vous échapper du vaisseau qui est en train de se crasher, et là, vous arrivez sur la terre ferme. Et là, vous êtes lâché, voilà, sur l'aventure. La partie d'avant, c'était un peu le tuto. Et après, je vais m'arrêter là au niveau du scénario, tellement, en fait, tu l'écris comme tu veux après ton scénario. En fait, il y a des centaines d'histoires, il y a vraiment une carte entière avec une centaine d'histoires qui est racontée sur cette carte. Tu vas où tu veux.
Il y avait une fin. Tu peux bien nous dire quelle est l'histoire principale.
Là, on peut te raconter la fin.
Tu meurs.
L'histoire en somme, c'est que justement, ces flagelleurs mentaux qui mettent des trucs, ils en mettent à tout le monde. Et du coup, il faut savoir pourquoi, il faut savoir machin. Et puis arrêter cette invasion.
T'essaies de te l'enlever, tu dis, moi j'ai un truc dans l'œil, j'aimerais bien me l'enlever et tout.
Comme quand t'as un cil, mais en plus chiant. Tu vois.
Ouais, c'est chiant. Mais en fait, tu sens qu'il y a un côté invasion parce qu'en fait, ils veulent infecter. Enfin, tu commences à rencontrer des gens, surtout les autres personnages que tu peux rejoindre dans ta compagnie, qui sont aussi infectés en fait. Et tu dis, ah tiens, il y en a plus que ça. C'est un peu. En fait, c'est marrant parce que dans Stranger Things, où ils jouent à Donjons et Dragons, à un moment donné, un des grands méchants, c'est un flagelleur mental et qui. Infecte tout le monde.
C'est un scénario en plus connu, écrit sur les flagelleurs mentaux. C'est une histoire qui existe, quoi.
Ce que j'ai appris aussi, c'est que toute l'histoire de l'Ariane qu'elle a fait est intégrée au lore. C'est-à-dire que ce que l'Ariane a écrit, voilà, c'est canon. Ça existe maintenant dans le lore Donjons et Dragons. Ça, je trouve ça
incroyable.
Ah ouais, c'est cool. Hein.
Donc voilà, mais après, comment s'écrit l'histoire? C'est pas comme à Uncharted où tu vas la passer du début à la fin. C'est, tu vas aller dans ce coin de la carte et après, qu'il va se passer tel truc, après tel truc. Tu vas le résoudre de telle façon qu'il va avoir des conséquences sur la suite de ton histoire. C'est vous qui consommez cette histoire dans l'ordre que tu veux.
Ouais.
Et
en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement bien, c'est que c'est absolument impossible. Et à un moment, il faut d'ailleurs lâcher prise là-dessus, de se dire ça va être le bon choix, ça va être le mauvais choix.
Ouais. T'es tout le temps en train de te dire, enfin, c'est souvent dans les jeux en fait.
Oui.
C'est le gentil, lui c'est le méchant. Là, oh, je sais pas. Après, ils ont fait un truc qui est cool et pas cool en même temps. C'est ils ont été sympas sur les sauvegardes. C'est-à-dire que vraiment. Oui. Tu peux vraiment faire le F5, la sauvegarde rapide, juste avant le choix. Donc, ça peut dénaturer. Oui. Les hardcore gamers, ils vont dire, oui, ça dénature le truc. Non, mais au moins, tu joues comme tu veux. Au moins, je fais mon choix.
Voilà. Ouais. Bientôt, tu vas nous dire qu'il faut un mode facile, bientôt.
Bah, c'est exactement ça. C'est le mode facile. Baldur's Gate a fait son mode facile de cette façon-là, bah, au niveau des combats,
c'est
déjà.
Il y en a, ça les genre. Ça leur hérisse le poil que tu dis j'ai fait F5, F9, ils disent ah c'est pas comme ça que tu dois jouer. Je fais,
après pour être tout à fait
franc, il y en a un qui veut faire ça, il le fait. C'est comme si t'avais un MJ. Pour moi c'est comme si t'avais un MJ en fait.
Les choix scénaristiques de toute façon que tu fais, tu vois pas les, enfin il y a des petits choix, tu le vois. Si t'as fait une connerie là, ok, tu recharges, mais souvent c'est des ficelles que tu tires et qui auront un effet 32 heures plus tard, quoi.
Oui, tu sais pas que quand t'as pas sauvé le gamin qui est sur la route et que tu l'as laissé juste se faire défoncer par les gobelins, qui en fait plus loin en fait c'est le fils du roi de machin et qu'en fait le mec il va te bannir de son royaume.
Voilà, c'est ça.
C'est pas vrai, hein.
Mais non,
genre
mais
ça pourrait être ça, alors
ça
que toi t'as juste choisi de dire ouais, j'ai pas envie de fighter les gobelins.
Là j'ai un peu la flemme. Ouais.
Flemme là. Et du coup t'as une situation qui est en face de toi et t'as littéralement 15 façons différentes de la gérer, et ils ont vraiment essayé de créer ce sentiment de jeu de plateau. C'est-à-dire que le mec te raconte une histoire, t'as pas une liste de choix dans la vraie vie quand tu joues sur un jeu de plateau. C'est tu pourrais inventer n'importe quoi. Ouais. Donc ils ont vraiment essayé de créer un nombre de choix fou, et c'est là que tu te dis le taf qu'il y a dû avoir derrière, d'écriture, parce qu'en plus de voix, d'écriture, de doublage et tout, etc. Bon, c'est qu'en anglais, c'est pas en français. Mais le taf, il est incroyable.
Sur le doublage, l'anecdote, c'est quand même que tout t'es du voice acting, enfin ils ont des acteurs pour la voix pour quasiment tous les personnages du jeu, et chaque cinématique c'est de la mocap de ces mecs là au point que c'est pour ça qu'ils disaient
la motion capture,
ouais, pour ça qu'ils disaient
pas faire
il y aura
son. T'as fait quoi avec ce temps?
Il est parti en vacances cet été, voilà.
4 jours en Italie. Non, de la motion capture, donc la capture de mouvement. J'en étais où? Non, je sais plus. Au point que, tu sais, quand ils nous impressionnent, ils disaient, il y aura 180 heures de cinématique dans le jeu, mais c'est parce qu'en fait, t'as toutes les
lignes
de réponses
de
dialogue qui vont être, enfin, toutes les réponses des mecs en face ont été filmées, capturées, doublées, et tu te dis, mais c'est un travail titanesque.
C'est pour ça que quand
tu cliques
quand un mois après, t'as un petit Starfield avec des statues qui,
On en reparlera le mois prochain.
On en parlera plus tard.
Voilà.
On en parlera plus tard.
Dans deux semaines, tu veux dire?
Non, dans deux semaines.
Mais je vais vous donner un
c'est dans un mois qu'on parle de ça.
Oui.
Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous spoiler un peu le début du jeu. Enfin, il y a vous arrivez dans un bosquet avec des druides et puis des réfugiés tiefling, des sortes de diables, des réfugiés qui se font attaquer par des gobelins. Et donc voilà, donc on a les druides dans leur bosquet, des réfugiés qui viennent, les troisième partie c'est les gobelins qui les attaquent. Et comment régler la situation? T'as la première solution, la plus héroïque on va dire, ça serait d'aller tuer les gobelins, tout le monde est sauvé, tout le monde est content, ça va très bien. Mais en fait il y a les druides aussi, ça les fait chier les réfugiés là. Puis en plus ils étaient en train de se faire un sort de protection, là ils nous font chier, faut vraiment les virer. Donc t'as une solution, c'est de d'aider à faire virer les réfugiés, et au moins ils font leur sort, ils sont protégés. T'as une autre solution, c'est tu tues les druides, les réfugiés, vas-y, ils viennent, ils prennent la place, quand même, les autres, dégueulasses. Et t'as la quatrième solution, c'est encore faux, tu peux aller à la base des gobelins au départ, ils sont pas méchants. Et ils disent, on va attaquer les druides, tu veux venir? Ouais, chaud. Ouais, chaud, j'y vais, tu peux faire ça.
On va faire un parking de ce truc-là.
Tu peux faire ça, et tu fais ça, pas de souci, l'histoire va continuer. Tu vas pouvoir, bon, il y a des personnages que tu auras butés dans ce truc qui pourront pas t'aider dans l'acte 2, mais il y a des personnages chez les gobelins qui eux aussi vont te débloquer des trucs dans l'acte 2.
Et puis, je pense que ce qu'il faut avoir en tête quand tu fais ces choix-là, c'est que il faut absolument, parce que je l'ai vu, je l'ai constaté, et je pense que j'aurai l'occasion d'en rediscuter, mais il faut absolument faire confiance au talent d'écriture de l'Ariane pour que chaque choix que tu fais est viable, et ensuite, ouais, dans le futur, même si effectivement tu as l'impression d'avoir fait tous les choix les plus pourris, ben, dans le futur, tu auras systématiquement, ça aura une répercussion qui fait que ton histoire va avancer, que tu vas pouvoir avancer,
c'est ça, parce
que tu vas pas être bloqué.
Trop souvent dans les jeux, si tu fais pas le truc gentil, le personnage il meurt, et ben tant pis, t'as loupé les 5 heures de scénario, voilà, qui sont liées à ce personnage. Et là, alors que là, non, ils ont vraiment c'est un toile d'araignée.
C'est comme tu dis, t'as des personnages que tu vas peut-être pas rencontrer parce que t'as fait le choix de qui bute tout un camp. Et souvent ces personnages, c'est parce que c'est des compagnons qui peuvent te rejoindre dans l'aventure, et comme ça t'as une équipe de compagnons. Et ce qui est ouf, c'est que pour chaque compagnon, ils ont écrit une histoire. Ils ont leur propre suite de quêtes où t'as pas l'impression que c'est juste des mecs random qui vont te suivre. Ils ont leur propre histoire. Et si tu veux les ignorer, tu les ignores. Mais si tu veux suivre leur quête, c'est autant passionnant que
exactement
le reste.
Oui, justement, j'allais en parler. Le background des personnages, j'ai jamais vu un jeu avec où c'est leur histoire est tellement imprégnée dans l'histoire principale.
Oui, elle est emmêlée complètement.
Ah ouais. Et du coup, enfin, les six, t'en as six peut-être, voire plus. Tu sais même pas qui choisir parce que leur histoire est trop stylée. Ouais. Et en plus, les choix sont impactants, et plusieurs fois en plus, j'ai été récompensé à tenter des trucs complètement cons. C'est-à-dire que je vais en raconter un. J'étais dans un donjon. Là, je croise un mec habillé un peu bizarre, avec des trucs vraiment, un peu sataniques. Il vient, il me fait, vas-y, est-ce que tu veux tester Je peux tester un sort sur toi et tout. Allez, chaud. Ben, mets-toi contre le mur, tourne-toi et je vais te faire du mal. Là, tu dis non. Ok, vas-y. Et là, il commence à te fouetter. Et là, t'as les trucs de réponse. Non, vas-y, j'arrête. Et t'as les lignes de réponse. Tu fais, oh, j'ai rien senti. Puis tu continues comme ça, il te refouette et tout. Bah vas-y, c'est comme ça que tu frappes et tout. Vas-y, là, frappe plus fort et tout. Parce que, ah ouais, vas-y, j'aime ça et tout. Tu commences à rentrer dans le jeu et tout. Et là, ça dure 5-6 lignes de dialogue et tout. Et tu sors de là, le mec fait, j'ai pris un kiff de fou et tout. C'était incroyable et tout. Et bah, du coup, la DS, parce que c'était un truc, il prie les DS, elle a trop aimé cette expérience et tout. Du coup, je te bénis de je sais pas quoi. Et là, t'as une bénédiction qui faisait pendant tout le reste du jeu. J'ai fait ça à la 5e heure, pendant tout le reste du jeu. Quand t'étais à moins de X% de PV, t'avais une sorte de régénération et tout, grâce à la déesse et tout, alors que je viens de me faire fouetter par un sadomaso dans le fond d'un donjon, tu vois.
Et le truc, c'est que des anecdotes comme ça, il y en a plein. Moi, j'ai discuté avec un boss pour le pousser au suicide, il s'est buté, j'ai pas eu besoin de le battre.
C'est
et il y a des trucs comme ça, mais il y en a tout le temps, c'est ça qui est incroyable.
Et surtout que tu peux builder tes mecs sur la force, etc., et t'as des trucs de charisme où là, c'est, tu peux vraiment faire des trucs de fou, voilà. Comme tu dis, il y a un boss qui est trop chiant à buter. J'ai vu une vidéo YouTube d'un mec, il a dit, c'est quoi, il a des bruits dans la tête ou genre de truc.
Ouais,
il dit, tu devrais buter tes potes. Ah, ça marche toujours pas. Bah, essaie de buter toi. Ah ouais, il se bute. Ah, j'ai encore des bruits.
t'es mort.
Non, mais c'est ça le truc, c'est que le jeu te dit, si t'as envie de suivre la voie qui a l'air la plus safe, tu la suis, t'auras une histoire
une très belle
qui
histoire.
Sera très cool. Si tu suis les autres, t'auras une histoire qui sera pas une sous-histoire, en fait.
Ah,
genre,
c'est ça.
Comme tu dis, les prises de risque, c'est genre, peut-être que t'auras un malus sur un truc, mais en fait, un bonus en récompense, comme le gars qui t'a fouetté. Tu peux avoir un mec qui dit, en fait, tiens, si tu me laisses te péter la main, je vais être trop content, mais au moins, tu verras derrière. Et en fait, derrière, il va juste te filer une main nouvelle et qui va juste te donner plus ça en force, tu vois.
En plus, justement, moi, je sais que j'ai tendance à vouloir faire le gentil à tout prix, mais c'est vrai que t'as tes compagnons, tu vois, typiquement, t'as Astarion, qui est un petit peu un filou, tu vois, qui est au contraire, qui est un peu une peau de vache. Et le truc, c'est que à un moment donné, il faut suivre son histoire à lui aussi, tu vois, si t'as envie d'avancer dans son histoire et tout, qui est très intéressante. Mais à ce moment-là, tu seras amené justement à faire des choix un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus méchants. Et c'est vachement chouette parce que du coup, même
c'est
si toi,
tu joues un vrai rôle, quoi.
Mais
c'est pas juste un jeu de rôle.
Non,
tu joues
c'est pas un jeu de Marvel.
Moi, je joue moi-même. Ouais. Moi, je. Et le truc, c'est que quand t'es avec Astarion et que tu commences à suivre sa ligne de quête, t'es forcément dans des situations où faut faire des choix de bâtard et où à un moment donné, il faut effectivement, tu vois. Et du coup, ça, même dans ton run gentil, t'as un peu une respiration méchante en te disant, là, pour le bien de ce truc-là, je le fais un peu. Ah, finalement, c'est rigolo. Et donc, du coup, après, le reste de ta run, enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, tu le saupoudres un peu, des fois, de dire, oui, là, ça va, j'ai sauvé déjà la moitié de la ville. Bon, merci, quoi.
Mais, mais ce que tu disais, et par rapport à l'intervention de Vincent, c'est vraiment le truc, c'est à un moment donné, c'est plus sur Discord, j'étais un peu genre vraiment en mode, Genre, là, c'est ce que j'appelle un jeu de rôle. Mmh. Genre, pas vos vieux RPG, genre Bethesda, ils peuvent aller se recoucher, tu vois. Ouais. Parce qu'ils venaient de sortir Starfield, j'avais envie de cracher dessus. Même si je vais y jouer, hein, pas de souci. Non, en fait, plus dans le sens où genre là, t'as vraiment l'impression d'avoir un jeu de rôle. Mmh. Genre, tu joues, enfin, ouais, ça joue sur les mots, mais tu joues des rôles, mais en fait, t'as le roleplay, enfin, les rôles et la narration au service du gameplay. Et l'inverse en même temps, tu vois, genre ils sont tout est imbriqué, tu peux pas faire l'un sans l'autre, sinon t'aurais juste un jeu narratif ou un jeu tactical, et les deux sont imbriqués, mais genre du début à la fin, et tu sens que tu joues vraiment un jeu de rôle.
D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous créez un personnage, il y a l'historique. Tu peux avoir un historique juste j'ai pu forgeron, ce genre de truc, et c'est un peu caché. Il y a l'historique sombre pulsion.
Oui.
Ah oui.
Et qui paraît-il le meilleur historique.
C'est un scénario. En tant que ton personnage, tu te réveilles au début et t'as des pulsions. Lui, j'ai envie de le buter. Tu vois, t'as la ligne de dialogue. J'ai juste envie de l'étrangler et tout. Et toi, t'essaies de te retenir contre ça. Et après, il y a un petit diable qui vient. Vas-y, si tu le butes, je te donnerai un bon petit loot. Mm-hmm. Tu vois. Et tu te bats contre ça. Et après, l'histoire, elle prend des dimensions.
Ouais, je suis deg de pas l'avoir.
De
fait.
Dingue. Et je trouve ça fou qu'ils le mettent pas assez. C'est ultra planqué. Alors que c'est incroyable.
Et d'ailleurs, du coup, c'est peut-être ça que tu voulais dire aussi. C'est que quand t'es nouveau dans ce monde-là, il y a vraiment un moment au début où t'es paumé, t'es pas guidé, et typiquement dans la création de personnages, moi je sais que les 5 premiers niveaux, je cliquais partout jusqu'à ce que ça s'arrête de clignoter, tu vois.
On va y venir justement.
On va y venir, mais on va y venir pas tout de suite puisque Vincent nous a concocté dans sa besace un petit quiz. Je vous raconte même pas. Et c'est parti pour le quiz. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'émission était 6 fois plus longue à cause des jingles qu'on met plus longtemps.
Il y aura le jingle golf.
J'attendais qu'il arrête de taper.
Alors, pour mon quiz, j'ai fait un quiz relativement classique qui va tester votre background de gamers.
Waouh.
Ok.
Mais non pas en parlant de jeux vidéo, mais de support de jeux vidéo.
Ah, c'est bon ça.
Waouh. Donc, je vais vous lire des speeches. Principalement inspiré, disons, de Wikipédia ou de ce genre d'infos. Et vous devez trouver la console, ou en tout cas l'élément qui permet de jouer, parce que des fois c'est borderline des consoles.
D'accord.
Et ça va être un point, et si vraiment vous galérez, je peux en donner deux, mais j'en connais pas beaucoup qui vont vraiment vous faire galérer.
Allez,
j'ai pas fait
va.
Des trucs trop obscurs, sauf certains, et on peut arriver à des vraiment des charades, quoi, pour trouver les noms.
Ça dépend vraiment de notre niveau, quoi.
Voilà, exactement. Charades. Alors, question 1. Donc, je suis l'ancêtre de la console de jeux portables, sortie en 1980. Alors là, je pensais pas que vous l'auriez si rapidement.
C'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Écoute.
Non,
mais voilà.
Ouais, je pensais pas. Ouais, mais je me suis dit, ils vont sûrement pas penser à Game & Watch. Ok, d'accord. Très bien.
Toi, tu t'es fait chier à écrire bien.
Il a 12 lignes, quand même.
Vendu à 43,4 millions d'exemplaires à travers le monde, c'est 59 jeux représentant l'un des plus gros succès de la firme. À chaque fois, j'ai masqué le nom des...
Bien sûr.
Sinon, ça sort plus. Donc, évidemment, ici, c'est Nintendo. Je suis produit par une firme japonaise très connue, basée à Kyoto. Le modèle original Silver est très connu. Le premier exemplaire comprend le jeu éponyme Ball. C'est rectangulaire avec un écran noir et blanc au milieu, des boutons sur les côtés. Vous voyez à quoi ça ressemble?
Ouais.
Le nom est tellement iconique qu'il sera utilisé pour un personnage du jeu vidéo Super Smash Bros. Melee pour le débloquer. Allez, je donne un point bonus si quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer Monsieur Game & Watch dans Super Smash Bros. Melee.
Il faut jouer 150 parties.
Non, ça doit être un truc.
Je le savais parce que c'est pas faux, taper avec le marteau.
Non, c'est pas genre son sort principal, ça, le marteau.
Oui, mais parce qu'il y a un autre marteau et il fallait peut-être. Non, c'est peut-être. C'est peut-être genre finir. Finir le mode aventure avec tous les autres persos.
Je sais pas.
Le mode arcade.
Ça s'appelle le target test avec les 24 autres personnages.
C'est vrai qu'il y avait ça aussi.
Ou alors faire 1000 matchs en mode mêlée.
Ah, c'était 1000 matchs. C'était beaucoup. Moi, c'était 100 victoires, mais bon.
Deuxième question. On reste dans le rétro puisqu'il s'agit d'une console de salon dite de troisième génération. Alors, j'espère que vous êtes au point sur vos générations de consoles parce que là, je vais vous en balancer déjà.
Je me souviens même plus. Ouais,
donc, troisième génération 8 bits, sortie en 1985.
C'est la NES, alors.
Mais commercialisée sous le nom qu'on lui connaît seulement en 1986. Elle est sortie sous un nom en 85. Atari. On la connaît sous un nom.
Non, c'est les trucs de Sega, il y a des trucs avec.
Je suis propulsé par un processeur Zilog Z80 jusqu'en 1996, date de fin de production.
Mega Drive.
Je serai vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Je suis capable de lire des cartouches de jeux. Je suis compatible avec des accessoires tels qu'un pistolet optique et des lunettes stéréoscopiques.
C'est pas la Famicom? Non.
Conçu pour fonctionner avec des gammes de jeux spécialement.
Game & Watch.
Mais non, tu as dit Sega.
Non. Ah oui, pardon.
Tu te souviens, on a parlé de
Smash Bros. Mais attends, c'était cet épisode?
C'était la question d'avant.
Ah oui, d'accord.
T'as gagné un moitié. Je dispose de plusieurs titres emblématiques comme Psycho Fox, Golvelius et Phantasy Star. Ce dernier devenant un jeu de rôle de référence et l'une des firmes franchises à succès de ma firme de production.
Sega Saturn.
Non, Sega Saturn.
Le jeu le plus vendu sera Alex Kidd in Miracle World. Je bénéficie ainsi régulièrement de plusieurs jeux intégrés, notamment Snail Mails et Hang-On.
Merde, mais là, je suis paumé, là.
Ou Sonic. J'ai également une petite sœur, la numéro 2, avant d'être définitivement remplacée par celle qui deviendra l'outsider de son époque et la star de ma firme de production.
Sega
Saturn.
Non. C'est la Sega quelque chose, c'est sûr.
En 85.
Alors, Genesis.
Sega, je sais pas.
C'est pas eux qui font genre Master
Game
System
Gear.
Ou un truc comme ça.
Non. Game Gear, non. Non.
Mais si vous balancez tous les noms, il y a de fortes chances que ça tombe plus tard et vous allez donner des indices à vos adversaires.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
Continue, refais. Alors, t'as dit quoi?
Sega, parce que
Genesis.
Non. Mais en plus, ah, mais la Genesis, c'est la... Est-ce que je dis pas de la merde?
C'est
la
avant
Genesis,
la Mega Drive.
Ouais, je sais.
Oui, c'est celle-là. Mais
oui,
c'est
avant. Ah,
je ne l'ai pas. Et tu vas dire, on va se dire, ah mais oui, bien sûr.
Ah, mais...
Sauf si on dit, ah mais non.
Donc là, Master System.
Ah mais oui,
bien sûr. Bah bien sûr, je l'avais. C'est faux.
Deux fois. J'ai dit Master System deux fois.
Bon, j'ai pas entendu.
Au tout début, mais au début, je me suis dit, c'est peut-être un passe les gars. Après, je l'ai redit.
Je ne pas, c'est fort.
Ouais, tape.
J'ai vraiment pas entendu. Désolé.
Non, non, mais c'est pas grave. Non, bon,
j'ai pas entendu non plus. Mais
question 3. On parle ici d'un mastodonte. Toujours, attention, sur celle-là, je n'accepterai qu'une réponse et après, ça sera résetté. C'est-à-dire que si vous pouvez pas balancer une réponse d'affilée, ok?
Très bien.
Toujours une console de salon sortie en l'an 2000. Je suis de la 6e génération et j'étais produit pendant 13 ans. Pendant tout ce temps, j'étais vendu
à PS2.
C'est Nico, PlayStation 2, ouais.
Il non, c'est Will.
Non, c'est John.
C'est qui a dit PS2?
Ah, bah alors on l'a dit en même temps. Parce que pendant qu'il disait Play, moi je disais PS2.
Hein. Je l'ai juste dit.
Ah, mais... c'est bon, je vous mets un point chacun.
Les 2000,
on est des avec le casque.
Oui, donc alors que vraiment j'ai rien dit. J'ai vraiment fermé ma
gueule.
Je suis occupé à lire.
Bah, bien sûr.
Plus de 4000 jeux disponibles qui représentent en tout 1,5 milliard de jeux vendus.
Ouais, non, mais
jouable grâce à mes manettes DualShock, je suis applaudi par la critique. Mes exclusivités ont fait ma célébrité, GTA, Final Fantasy, Metal Gear Solid.
À la belle époque.
Je donne naissance à des licences historiques, God of War, Ratchet & Clank, Jack & Dexter, Devil May Cry, Kingdom Hearts. Et le jeu le plus vendu sera... Un point bonus.
Metal Gear Solid 2. FIFA.
GTA San Andreas.
Oui,
ah voilà. Bah oui.
C'est vrai que c'est sur ça.
Bah oui, bien sûr. Bah oui, en fait. Qui d'autre? Bah t'as mérité. Hein.
Allez, question suivante. Je suis une console de jeux vidéo 8 bits de 3e génération, conçue et commercialisée par le constructeur américain éponyme. Je suis sorti début 1986 aux États-Unis.
Bah non, c'est japonais aussi.
Atari. C'est une Atari. Maintenant, je veux le numéro.
2600.
Puis dans le courant de l'année au Japon.
2600.
Ah d'accord. Je vais pas le comme ça. D'accord. Je vais pas le
Atari. Aussi. Atari, c'est le producteur. C'est comme si tu me disais Sony.
Atari
ST.
Non. C'est un chiffre. Voilà.
Bah ouais.
Ah bah oui.
2600, 3600, 4000.
On va donner voilà. Pour celle dont je parle, allô, vous me donnez un chiffre entre 1 et 20 000.
Ben, moi, je dirais 8 000.
2
000. 8 500.
Et c'est la 7800. Ça sera un point pour William.
Non, 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 pour Nico.
Bah ouais.
C'est
non, mais je vous ai pas vu depuis trop longtemps, je vous comprends.
Alors, tout à fait, mais tu sais qu'il m'a fallu deux saisons pour arrêter de vous comprendre.
Wow. Ouais, et en fait, donc quand c'est sorti, c'était, ça arrivait à peu près au même moment que les ordi portables qui devenaient abordables, parce qu'il y a le prix des microcontrôleurs
dans
le Commodore qui a commencé à baisser fort. Et comme en fait, c'était ça leur cœur, ils sont fait bouffer à cause de ça par l'ordinateur portable.
Mmh, d'accord.
Voilà, bon, je vous avais mis une liste de jeux célèbres, mais alors vraiment, moi, j'en connais aucun.
Bah, Atari, nous, on n'y était pas.
Juste Dark Chamber. Il y a Donkey Kong Junior. Centipede ou encore Food Fight.
Bah, voilà. Centipede. Voilà. Moi, c'est Centipede qui m'intrigue le plus.
Ouais. Bah, parce que maintenant, c'est connoté.
Mais... Eh oui.
mon nom est composé du nom de la firme qui me crée, puis d'un chiffre. Il fait plutôt ringard, un peu comme un podcast sur les sports inconnus, même vibe.
Waouh! 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 Wow. Je suis de Super Sport 3000 le mois prochain.
Et hop, la passe D.
Clac, clac,
clac. Allez, on attaque sur la première console de ma firme, dont l'activité principale est plus l'édition et le développement de jeux vidéo, comme Fatal Fury ou Metal Slug. Elle est sortie au Japon fin... Alors là, ce que vous êtes en train de faire dans votre tête, c'est de savoir qui est l'éditeur de Fatal Fury ou Metal Slug. Et quand vous, je vais vous le dire, ça va vous dire « Ah, oh, mais oui, c'est évident !» Elle est...
Aïe, mais non, rien à voir.
Elle est sortie au Japon fin 1998, a été arrêtée en 1999, j'ai dû me tromper du deux. Ah oui, non, parce qu'en fait, en 99, ils sont sortis la version Color.
Game Boy.
À cause de ventes trop faibles pour
Game
la...
Boy Pocket.
Non,
Game...
non, c'est pas Game Boy. Ce système a été seulement commercialisé sur les marchés japonais et hongkongais, mais on la connaît de nom. Au moins de nom. Bien qu'il ait eu une courte vie, quelques jeux importants sont sortis dessus, tels que Samurai Showdown ou King of Fighters. R1. Cette console peut jouer une grande partie des nouveaux jeux en couleur. Il existe toutefois des exceptions notables.
Ça, la ColecoVision.
Non, ouais, mais je l'ai vu, elle n'y est pas. Elle y est pas. Sonic the Hedgehog, Pocket Adventure ou SNK vs Capcom.
Bah, la Game Gear, non, c'est un.
Attends. Mais alors, c'est Sega.
C'est portable. C'est pas Sega, c'est forcément.
Saturn.
Pas.
Match of the Millennium, ouais, non.
Il a dit Sonic.
Il existe la version. Alors, j'ai fait une charade parce que.
Bah oui, merci.
Donc, attention, vous êtes prêts? Une seule réponse par personne. Hein. Après, on recommence. Hein. Mon premier est l'inverse de rétro. Mon second est le prénom d'un mec.
Neo Geo.
Oui, bien sûr. Neo Geo Pocket. Wow. Et mon troisième est là où je cache mon briquet quand je vois Nico qui enlève son t-shirt mais en anglais.
Wow.
Voilà.
Ah ouais, c'est vrai que ouais, je connaissais le nom, mais je savais pas que... Ah ouais, courte vie, enfin vie chelou.
Ouais, parce qu'en fait, ils ont sorti la Neo Geo Pocket Color très vite derrière. Wow.
Ah oui, donc du coup, ils ont
fait comme Nintendo, hein. On les connaît.
Attention, ça peut aller très vite. Cette console de jeux vidéo sortie aux États-Unis le 15 novembre 2001 est la première console
Game
de l'entreprise créatrice.
Game Boy. Game Boy.
Xbox.
Attendez, oui, bah oui, c'est
Xbox.
Mais vous écoutez pas.
Non, c'est vrai que j'ai pas
écouté. T'as dit ça va aller vite, du coup, on se dit bon, bah, ça va être Xbox.
Cette console de jeux vidéo sortie aux États-Unis le 15 novembre 2001.
Mais oui, en plus, bah, bien sûr.
C'est la première console de l'entreprise créatrice.
Mais non, mais je suis une merde.
Game Boy, en 2001. Bah, rien d'y est, quoi.
Il y a que William et moi qui sommes concentrés, Nicolas.
Vous savez ce que c'est que. Allez, point bonus si vous avez à me donner le modèle du processeur qui l'équipe.
Un Intel Celeron.
C'est pas loin, mais c'est pas ça.
Pentium 2. Non.
C'est un Pentium 3, dommage.
Ah, dommage.
Alors, anecdote rigolote. La couleur de cette console fut choisie pour plusieurs raisons. L'un des principaux designers de la console, Horace Luke, n'avait plus qu'un feutre de cette couleur sous la main. L'essentiel des esquisses fut tracé avec ce feutre vert et furent adoptées. L'autre raison est que cette couleur fut considérée par les designers comme symbolique de la technologie. Les premiers écrans d'Apple affichaient des caractères verts sur fond noir, de la science-fiction, le logo d'Alien est vert, et de la puissance, puisque le médaillon de la console est censé évoquer la puissance nucléaire.
Waouh, ouais.
Voilà. Au début même, ils avaient prévu de la sortir d'un blanc brillant argenté, mais apparemment c'est trop cher.
Ah voilà. Oui, ok.
Bon, pour information, c'est aussi la console la plus puissante de la sixième génération.
Oui. Ouais, mais ça c'est sûr. Mais bon, elle s'est pas beaucoup vendue quand même.
Vas-y, donne un chiffre pour voir si vous voulez un point bonus, combien il y en a qui ont été vendus.
Ouais, je dirais 50 millions.
Ouais, 75, 100.
10 millions. C'est bas, je pense.
C'est 24 millions, donc c'est John qui gagne le point bonus.
Oh, mais il y avait un point bonus.
Ouais, j'ai dit. Sort de nul.
Ouais, en même temps, s'il le dit.
Et d'ailleurs, j'ai pas mis ton point, oui. C'est
qu'on l'écoute pas, en fait.
Mais c'est toi qui as trouvé Xbox, William.
Oui, John, oui. On l'a dit un peu en même temps.
Ouais, je pense que c'était toi en premier.
Allez, encore une console de salon sortie en 2006. Elle fait partie de la 7e génération de consoles. Elle sera vendue à plus de 101 millions d'exemplaires worldwide.
GameCube.
Depuis la conférence
la
de
Wii.
Presse, c'est Wii.
La Wii, putain, Wii. Je l'avais plus là. Je me disais, mais attends, mais...
Comment ça s'appelle?
Elle est sortie sous le nom de code de Revolution.
Ouais.
Vous savez ça?
Ouais.
Ça, tu sais, t'étais assez grand pour t'en rappeler.
Ouais. Je me souviens même être allé la chercher en bus sous la pluie à la Fnac de Cannes.
Attends, toi, elle marchait plus parce que
tu remonter. Ouais, non, non, quand même pas. Remonter et on avait joué et je voulais trop jouer à Zelda, sauf qu'il y a un pote qui m'avait accompagné et du coup on avait joué à Wii Sport toute la soirée. Alors que je voulais juste jouer à Zelda. Je veux que tu t'en ailles pour jouer à Zelda s'il te plaît. Et en fait, on avait
il est resté dormir.
Alors avec cette console, le Nintendo espérait atteindre un plus large profil démographique que ses concurrents qui produisent eux aussi des consoles de 7e génération. Pour information, ils ont dit qu'avec cette console, ils arrêtaient la course à la technologie, etc. Ouais. En décembre 2006, à une conférence de presse sur la sortie du jeu Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament, Satoru Iwata, insiste sur le fait qu'il ne cherche pas à battre son grand concurrent, mais plutôt à ce qu'il y ait davantage de personnes qui jouent aux jeux vidéo. C'est pourquoi on peut dire que c'est une console de bébé cadom.
Non,
non, non, voilà.
Non, mais il cite, hein.
Attention, technique. Alors attends, un point chez les Minico. Ouais. La prochaine qui arrive vaut 2 points.
Ah ouh, ça doit pas être facile.
C'est un appareil de jeu autonome accompagné de 2 contrôleurs et non pas une console classique, bien qu'apparaissant dans le top des consoles les plus vendues sur Wikipédia. L'appareil pèse 571 grammes et a entre 2 et 3 heures de batterie. Un processeur Snapdragon 385 est intégré, ainsi qu'un ventilo pour le refroidir.
PSP, c'est le machin là.
C'est bon, un point pour John. 2 semaines après son lancement, la compagnie annonce le chiffre de 5 millions de dollars de bénéfices pour appareil. Il est vendu à plus de 700 000 exemplaires en 2019 au prix de 449 euros.
Non, mais je vois.
En octobre 2020, la version 2
l'Oculus Quest.
C'est l'Oculus Quest.
Oh, j'en peux plus, là. Quand j'ai dit le machin, c'était ça. Hein.
Ouais, bah, t'as bien fait, t'as pas donné trop d'indices. Putain, bravo. Eh oui, bien sûr, l'Oculus Quest.
Ouais.
Eh ouais.
Un truc autonome avec 2 machins que tu mets.
Eh ben oui. Ouais, c'est moi, j'ai cherché console portable où il y aurait 2 manettes. Enfin, vraiment, quelque chose de ridicule.
Tu veux dire Ouais. Tu veux dire la Switch?
L'appareil suivant est une console de jeux vidéo 8 bits de 4e génération, mis en vente au Japon le 21 avril 1989. Game c'est Game Boy.
Non, wow. Mais attends! Mais arrête!
Petit Game Boy depuis le début.
Ah, ouais, voilà. Depuis le début.
Game & Watch.
Allez, pareil pour un point supplémentaire. Si vous arrivez à me dire à 10 millions près combien d'exemplaires ont été vendus en considérant Game Boy et Game Boy Color, qui est considéré comme la même gamme pour information, c'est le deuxième console la plus vendue au monde. Je donne un point supplémentaire. Allez, je vous écoute.
190 millions.
250 millions.
Attendez, excusez-moi. Je vous avais dit, donc on a parlé de la console la plus vendue au monde, c'était la PlayStation. Est-ce que vous vous rappelez combien il y en a qui sont vendus?
Oui, et c'est largement moins que ce qu'on a dit là.
Oui, c'est ça. C'était 155 millions.
Je maintiens mon 250 millions.
Mais pareil. Il n'y a plus que Will qui a une chance parce qu'il n'a pas encore dit.
Oui, 220. Je ne vais pas jouer le salaud. Sinon, je mets.
Non, c'est, en fait, c'est 118 millions.
D'accord.
Ah,
D'accord. Ce qui est déjà tout à fait honorable.
Ah, tout à fait.
Mais bon, n'importe qui peut faire ça. Hein.
Et alors, du coup, les ventes se sont légèrement cassées la gueule au bout de genre 2 ans. Et en fait, ce qui a re-explosé les ventes...
C'est Pokémon.
Pokémon.
Ah ouais.
Allez, on en a déjà parlé ici. Cette console bénéficie de plusieurs jeux emblématiques, tels que Night into the Dream, Sega Rally Championship.
Dreamcast.
C'est non.
Sega Saturn.
Oui.
Je t'éclater la tronche. J'ai envie de...
J'adore la reprise.
Je dis que de la merde.
Éclaté.
Ah ouais, la vache, je suis nul, hein.
Ouais, du coup, en fait, elle se vendait très très bien face à PlayStation. Ouais.
Ah bah oui.
Sorti en même temps, ouais. Et en fait, ils ont complètement raté leur commercialisation. En trois mois en France, ils ont écoulé quasiment tous les stocks. Alors qu'il y avait 3 fois plus de stocks
de Play.
Et par exemple, pour le lancement et la campagne de promo de Noël de cette année-là, ils ont investi 4 millions, là où Sony en investit 20 millions.
Ah bah voilà,
et en fait, ils sont... Et du coup, comme les chiffres partaient pas, ils n'arrivaient pas à embarquer des développeurs, et ils ont perdu l'exclusivité. Et puis,
oh, waouh. Ah ouais, c'est...
J'avais un indice, c'était elle porte une autre planète avec des anneaux. Voilà.
Ouais.
Si jamais vous trouviez pas.
Gros indice.
Attention. Complexe. Complexe. On parle ici d'une console de jeux vidéo portable et un téléphone portable.
La N-Gage.
Ah ben ouais.
Wow. Oh, c'est impossible. Impossible de l'enlever. Par pitié, celle-là est pour moi.
Comment tu prononces
la N-Gage?
Eh non, c'est pas comme ça.
Non, c'est ça.
De Blueberry.
Alors, si t'as des fun facts sur la N-Gage, par contre, je suis ultra chaud. Ne serait-ce que son nombre de ventes pour rigoler.
3
millions.
Ah ouais, c'est vraiment pas beaucoup.
Ouais, cette machine n'a pas eu le succès escompté. Voilà, ce que j'ai noté.
Bah, je te confirme. Ouais.
Et le jeu le plus connu dessus, c'est
Tomb Raider,
Sega Rally.
Je te dis quoi?
Je suis plus.
Attendez, vous savez qui l'a conçu? Quelle est l'entreprise qui l'a conçu? Nokia.
Ah oui, Snake, c'est Nokia. Ouais.
C'est Snake, évidemment.
Ah bah oui.
C'est Nokia.
C'est le jeu le plus connu du coup.
Ouais, c'est ça. Le gros jeu du lancement.
Feu Nokia.
Attention. 4 points pour William, 4 points pour Nico, 6 points pour John.
Non, j'arrête de jouer.
Ici, 2 points en jeu.
Ah, ça fait plaisir.
Son nom est un mot valise créé à partir des mots œuf en japonais et montre. En fait, la retranscription en katakana du mot anglais watch. Il s'agit d'une console miniature.
Game & Watch.
Si c'est encore Game & Watch, je vais t'éclater par contre.
Il s'agit. Ah, surtout, il y avait 2 fois.
Oh non !
Mais pas dans l'ordre où tu le voulais, toi. Il s'agit d'une console miniature de la taille d'une montre.
Tamagotchi. Allez.
Oh !
Ouais.
Il est très très fort.
Ah ouais, bon.
Tamagotchi. Eh oui, bah attends.
Bah, je suis désolé, mais
qui n'a pas eu son Tamagotchi qui se sent transformé en caca?
Oui, bah, ouais, non, c'est voilà. Pas moi aussi, j'ai eu. Donc,
ça a marqué.
Et apparemment, ouais, ça a été un. Il y a eu 2 éléments importants, c'est-à-dire que ça a explosé en termes de vente en France. Je crois qu'ils en ont emporté 900 000 en France en 3 mois, il n'y avait plus un seul de disponible. Okay, bah et au bout de 4 mois, plus personne n'en voulait.
Ouais.
Ah oui, ça a été flash éclair.
Ouais. Ouais. Et par contre,
comme l'Enspinner.
Ça représente, comme l'Enspinner. Mais justement, apparemment, ils disent que c'est symbolique du phénomène de mode de la cette
récré.
Époque-là.
Ouais, ça, c'est les phénomènes de mode de récré.
Et qu'apparemment, c'est témoin d'une avancée sociale dans le rapport à la technologie, dans le sens où c'est la première fois que c'était plus ou moins toléré d'avoir un espèce d'animal de compagnie électronique. Quoi.
Ah oui, d'accord, ok. Putain, c'est fou.
C'est rigolo, ça.
Que tu ouais,
c'est
crevé.
Bah, allez, dernière question. Cette console est une console de jeux vidéo portable en couleur, sortie en 1990 afin de concurrencer la Game Boy de Nintendo à Paris une année.
La Game Gear.
C'est la Game Gear.
C'est la Game Gear.
Ouais, quand même.
C'était juste qu'il
laissez-la
fallait...
Laissez-la moi, par pitié.
Il fallait 6 piles...
Voilà. Ah, attends, mais c'était ma question bonus.
Oui, il y a vraiment 100 piles. Vas-y, dis-nous.
J'en ai, ok, bah combien il faut de piles?
Bah 6, non.
Ouais,
non,
bah c'est ouais, ça. 6 points pour Nico, il a gagné.
J'en ai une chez moi, enfin chez mes parents, que j'ai retrouvée.
Mais elle était trop puissante.
Est-ce qu'elle marche encore? J'ai vu 6 piles et j'ai vu trop.
6 piles, faut les avoir.
Oh, la planète.
Ouais, donc ils en ont quand même vendu 10 millions et c'était un bon succès commercial, mais le problème c'est qu'à côté il y avait la Game Boy.
Ouais. Il n'y a besoin que de 4 piles.
Oui. Et puis là, donc c'était 6 piles dans 2 compartiments, quoi.
Ah, putain, oui. Mais je me souviens plus parce que je suis d'avoir joué. Non, mais surtout, tu jouais une heure, quoi. Maximum avec tes 6 piles, tu jouais une heure.
En plus, c'était une console un peu en long, en fait, tu vois, quand elle est couchée. Donc,
ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça choque plus parce que la Switch a un peu le même
compacteur. Oui, et parce que le Steam Deck fait la taille d'une table.
Voilà, d'une table allongée. Mais
ouais. Dis pas ça, je m'en achète. Bon, du coup, je refais le point score. Will 4, Nico 5 et John 8 points.
Eh ben, écoute, si j'ai pu dépasser Will, c'est encore une victoire. Bravo, John.
Félicitations, John.
Bravo, John. Très, très joli
quiz. C'est toi le vrai gamer.
Qui nous remet un petit peu dans l'ambiance cours de récré pour le coup, là. Retourner, hein.
Je suis un gros bébé, moi.
On va maintenant passer à la suite de la critique de Baldur's Gate 3. Quand tu veux, William.
Je remets un peu de musique. Pour remettre dans l'ambiance donc, de ce Baldur's Gate, on a parlé un peu
background,
etc. Maintenant, parlons un peu gameplay. Avant de parler de combat, etc., ce qui va vraiment définir le gameplay de vos combats ou même de vos dialogues, c'est les classes.
Oui.
C'est les classes que vous allez choisir déjà pour vous. Ou pour vous, vos personnages, vos compagnons, vous allez pouvoir choisir les guerriers ou les barbares qui vont se contenter de taper, hein, un peu, c'est pas très compliqué.
Comme leur nom presque. Hein.
Voilà. Vous avez les sorciers ou les mages pour lancer des sorts. Justement, c'est bien d'en avoir au moins un ou deux parce que ça va vraiment un peu varier le gameplay. Et après, vous avez tout. Hein. Vous avez des druides, des bardes. C'est un peu rare en plus dans certains RPG, mais en plus, ils peuvent être très intéressants.
Mais pas dans Donjons et Dragons, apparemment, quoi.
Oui.
Voilà. Ouais, non, ouais.
Des occultistes, des rôdeurs, des clercs, des moines, des paladins. Du coup, vous allez pouvoir faire un barde nain qui était ancien. Enfin, je sais pas. Tu peux faire ce que tu veux. Et en plus, vous avez cette notion de multiclasse.
Alors qu'il faut savoir, hein. Pareil,
il faut
hein.
savoir
pas
parce que c'est un petit bouton quand tu prends un level up en haut à droite et quand j'ai un petit bouton, c'est un centimètre par centimètre.
Rajoute un niveau dans une autre classe, quoi.
Qui va te permettre de faire un guerrier barbare ou un sorcier mage, qui est des trucs super intéressants. Le rôdeur, par exemple, avec un roublard, ça va être vachement intéressant. Le rôdeur pour tirer à l'arc et en même temps, tu prends les compétences du roublard qui fait qu'il fait des critiques et il peut se cacher.
Mmh.
Et c'est un truc qui marche super bien. Et donc, du coup, c'est tiré des règles de Donjons et Dragons 5e édition.
Même dans Gate, on peut faire un archer discrétion.
Oui, et en plus,
tu peux faire un archer démoniste. Enfin, tu peux faire.
Mais justement.
Non, mais oui. Non, mais ouais, je sais, mais tu peux faire des trucs, mais tellement nuls ou complètement pétés, mais genre des trucs dans tous les sens.
Mais justement, au Early Access, je m'étais fait mon archer classique parce que j'ai envie de jouer archer. Et j'avais joué une dizaine d'heures et j'ai recommencé une partie après. J'ai dit, je prends pas archer. Pourquoi? Parce que l'archer, bah, il tire. C'est tout. C'est-à-dire que quand tu prends un guerrier ou un rôdeur, c'est un peu le problème de certaines classes que je trouve pas très équilibrées ou en tout cas pas très intéressantes. C'est-à-dire que ça va être toujours c'est les archers, comme je te dis, ils ont pas beaucoup de compétences et tu te places, tu tires. Après, donc, il y a un moment, faut se placer à un bon endroit, faut peut-être faire des tirs discrets, mais après, les combats sont quand même, je trouve, assez redondants avec certaines classes. Ouais, donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir ces systèmes de mages. Et comme je disais, c'est tiré, donc des règles Donjons et Dragons, donc du coup il y a des trucs très spécifiques, mais tout ce qui est pourcentage de réussite, il y a 70%, les dégâts ou les dialogues, tout ça du coup c'est des jeux au dé. C'est-à-dire que t'as la règle de Donjons et Dragons 5e édition qui va dire quand un guerrier tape avec une arme, ça lance, sa constitution est de 16, donc ça fait plus 6 au lancer de dé, l'autre il a une classe d'armure de 14, donc en fait il y a plein de trucs qui sont masqués dans le jeu et qui font qu'eux ils te disent bon, 70% de réussite. Ouais. Et en fait, c'est qu'à calculer, vu que lui, il a une classe d'armure de tel truc. Donc, c'est bien, parce que toi, tu connais pas les règles et tu peux ouvrir le petit historique et qu'est-ce qui s'est passé. Là, t'as tout le détail.
Oui, sur les combats et tout ça, heureusement que c'est caché qu'il donne des pourcentages, même si t'as l'impression que les pourcentages sont flingués. Genre, que quand t'es à 50%, c'est pas que t'as une chance sur deux, t'as l'impression que t'as quasiment pas de chance du tout.
Oui. Ouais, tout à fait.
Mais en fait, c'est basé sur des règles de dés à 20 faces. C'est pour ça qu'en fait, t'as des modificateurs où ils disent, bah, en fait, quand t'as 16,
tu fais x5 et ça
en fait, faut que le mec, avec un dé de 20, il doit faire un certain truc. Avec ses bonus, il doit dépasser ton 16 pour réussir à toucher. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, les pourcentages de miss ou de touche, bah, ils sont plus ou moins élevés. Mais je sais pas si t'as déjà vu un livre de Donjons et Dragons. Toujours le mien, chez moi, de 3e édition d'il y a 20 ans. Le livre du joueur, c'est un truc à 300 pages.
Je me demande comment.
Le livre du maître des jeux, qui donc a plus de règles et plus de trucs, c'est un livre à 300 pages. Le livre des monstres, donc qui te parle de tous les monstres, c'est un livre à 300 pages. C'est un truc.
Comment tu fais une partie de. Attends, alors là, du coup, je lance. c'est super cool pour les gens qui connaissent les jeux de plateau, mais pour quelqu'un, c'est pour ça que je trouve fou qu'il ait aussi bien marché, parce que il y a des trucs, c'est pas clair du tout.
Mais oui.
Et
moi, un truc que j'ai appris après avoir fini le jeu.
Oui, c'est
non, mais y a tout, ce qui était un avantage.
Exactement, oui. J'allais y venir.
Ah, voilà, vas-y.
C'est-à-dire que j'ai joué 50 heures, j'ai regardé des dizaines d'heures de build sur Internet et au bout de 50 heures, c'est ça les réactions. Tu vois, genre, t'as des sorts, tu dis ce sort il est nul, mais c'est une réaction. Réaction, ça veut dire c'est quand on t'attaque. J'avais un sort, c'est armure de feu, je fais c'est nul. Sauf que c'est une réaction, c'est quand on m'attaque, ça va déclencher ça. Donc c'est pas une action. C'est limite une action gratos. Tu captes ça. T'as les histoires de concentration. T'as des sorts, t'as besoin de concentration pour le lancer. Il y a juste écrit concentration, mais ça veut dire que t'es concentré à faire ça. C'est-à-dire que si tu lances un autre sort de concentration, en fait, je viens de faire une concentration sur Nico, il peut attaquer deux fois.
Et je te remercie.
Trop bien. Donc, mon guerrier peut attaquer deux fois. Sauf qu'après, je lance pluie d'épée. C'était concentration aussi, donc il n'a plus, il peut plus attaquer deux fois. Donc, j'ai littéralement perdu un tour, le tour d'avant. Et c'est pas.
Non, mais c'est des trucs. C'est-à-dire, littéralement, il doit canaliser son esprit pour vraiment se concentrer.
T'as des actions et t'as des actions bonus. T'as une attaque, mais celle-là, c'est une action bonus. Donc, en fait, vu que pour deux tours, tu peux toujours faire une action bonus. Si t'as une attaque sur action bonus, c'est super puissant. Ouais. Faut le capter. C'est un petit triangle en bas à droite. Les histoires d'avantages et désavantages. Ça, c'est un avantage. Ah, cool. Non, c'est-à-dire que tu lances 2 dés. Il faut faire 16. Si t'as un avantage, tu lances 2 dés. Donc, t'as limite deux fois plus de chance.
Tu prends le meilleur. Tu prends le moins bien.
Et voilà.
C'est le genre de truc,
donc des avantages, c'est complètement.
En fait, il y a des trucs. C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est impossible de savoir soit si on te l'explique pas, soit si tu te plonges pas un peu plus, ou si t'as pas un déclic, ou si t'essaies de lire ce que le jeu. T'as une sorte de livre intégré, mais c'est pas un livre intégré. C'est quand t'es au clavier, t'appuies la touche T sur un élément, il t'explique un peu plus. Et des fois, t'as un autre élément dans le texte explicatif qui est surligné. Si t'appuies la touche T en surlignant le truc, mais te re-explique un autre terme à l'intérieur, ça te fait des explications imbriquées dans des explications, et en fait, il y a le livre de règles qui est intégré dans le jeu, mais C'est... Et même là, c'est compliqué. Même moi, je connais les règles de Donjons et Dragons, et là, c'est compliqué.
Le problème, aussi. C'est que c'est bien d'avoir un truc aussi puissant que Donjons et Dragons, parce que c'est ultra puissant, mais c'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire que t'as un truc cécité parce qu'on t'a un peu, on t'a crevé les yeux, t'as un truc cécité, bah, du coup, tes tirs, t'as un désavantage. T'avais 50% de chance de toucher, tu tombes à 25.
Ouais.
Ou si tu tires en hauteur, t'as un avantage, donc tu passes à 75. Donc, c'est simplifié, mais ça, toi, tu vois, 75, 50, 25, tu dis, mais pourquoi je suis à 25? Pourquoi tu, et j'ai regardé des vidéos qui t'expliquent, ah, faut faire ça, faut faire ça, si le mec est par terre, t'as un avantage. Donc, essayer de faire tomber les gens avant, du coup, tes attaques, elles ont de chance d'être faire.
C'est pas mal un jeu où soit t'as le temps et t'as fait une première run, et en fait, tu sais que t'as pas forcément compris tout le jeu ou t'as pas tout vu, et en fait, tu sais que t'as du temps et que t'as envie de refaire, et tu te refais une deuxième run. Et là où en fait, t'auras plein d'éléments que t'auras acquis, et c'est bien parce que tu vas pouvoir tenter des nouveaux trucs. Ou c'est comme Nico le disait tout à l'heure, à la création du personnage.
J'ai passé 3 ans.
Moi, c'est simple. Dans Donjons et Dragons, même quand j'ai joué, j'ai beaucoup joué au jeu de rôle papier, les mages et les systèmes de sorts, je comprenais rien. Même en papier. Donc là, j'ai compris, enfin. Le jeu. Donc, je jouais des guerriers. Mais ce qu'il y a, c'est que, genre, j'ai fait des années de jeu de rôle papier, j'ai toujours joué un guerrier, et là, j'ai refait exactement le même guerrier. Littéralement le même, avec la même spé et tout, tu vois. Donc, je savais sur quoi cliquer, je savais combien mettre en force, les talents, les machins, les compétences. Et donc je retrouvais mes mêmes sensations, je me disais c'est trop bien, genre je sais qu'il peut faire genre arriver niveau 8, le mec il aura 1000 attaques parce que c'est un guerrier qui one shot tous les mecs et les autres ils ont rien foutu entre-temps. Mais parce que je le connais, je me dis un néophyte, tu lui dis vas-y, tu peux créer ton propre personnage. Non,
surtout qu'ils te disent pas là tu vas créer un guerrier, ils te disent pas ce que tu vas avoir niveau 5, ils te disent pas ce que tu vas avoir niveau 8 alors que sur certains persos tu peux le savoir à quoi ça va ressembler.
Ouais. Et pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose dans l'approche aventure, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être intimidant, cool, hein. Pour le coup, moi, je trouve ça intimidant et c'est pas... En tant que joueur, moi, j'ai une approche beaucoup plus rationnelle où je veux savoir où je vais, etc. Et j'aime pas trop ça me dérange. Mais par contre, je trouve que c'est super noble comme approche de dire, bah voilà, ça va être... Bah, tu pars à l'aventure, là, mon gars. Donc, on t'explique pas, quoi, tu vois.
Exactement ça. Et t'as une récompense par l'expérimentation, l'exploration, et en fait, même si t'as des trucs que tu comprends pas, au bout d'un moment, un jour, tu vas faire ah, j'ai enfin compris. C'est comme si ton personnage en lui-même
avait compris.
J'ai beau avoir chopé ma compétence, mais je viens de comprendre 10 heures plus tard que c'est dans telle situation qu'elle est utile. Et là, c'est trop bien, en fait.
Typiquement, il y a des sorts de bouclier, tu te fais jamais chier à lancer un sort de bouclier, c'est trop chiant en combat, t'attaques.
Ouais, t'as envie de taper.
Bah non, faut comprendre que c'est un sort, tu le lances le matin au réveil, tu l'as pendant toute la journée. Mais si, les sorts de bouclier de mage, tu le lances le matin, ça dure jusqu'à ce que tu te recouches. Donc tu le lances une fois dans ta vie.
D'accord.
Il y en a plein des sorts comme ça. Il y avait un œuf, c'est un sort de festin. C'est en plus un sort niveau 6. Tu te dis là, tu lances des grosses boules de feu. Ben non, c'était méga festin. Tout le monde a 30 de vie et c'est pas pendant le combat. Toute la journée.
D'accord.
Et c'est ça, tu captes ça au bout
comme
de 50
heures. Comme les élixirs, Nico, tu posais la question.
Oui.
Ça fait quoi? Ben tu bois un élixir. Tu bois random comme ça, c'est ça. T'as un bonus qui est par exemple le mec, il a plus une attaque à chaque tour, ce qui est énorme. Eh ben, ça dure jusqu'à ce que t'ailles te reposer. Et des fois, tu te reposes qu'au bout de 2 heures.
J'ai pas utilisé un élixir de la partie. J'en ai 270 dans mon
coin.
J'en ai pas utilisé.
Non, mais tu vois, genre, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs de vitesse. Tu dis, ouais, bah, il va plus vite. Non, c'est genre, il va plus vite, il se déplace plus loin, il attaque plus fort, il attaque encore plus. Et là, tu mets ça, enfin, c'est un peu caché parce que t'as pas envie de regarder les potions.
Ouais, mais si c'est plus 3 vitesses, en fait, la vitesse est en prise en compte pour
C'est ça, c'est des trucs à ancrer. Et tu peux faire tout le jeu sans comprendre un quart des règles.
Et ça, c'est aussi, je trouve que c'est bien dans le sens où, t'as pas une espèce de gateway qui fait que, enfin, une barrière qui t'empêche d'apprécier le jeu.
Comme je te dis, ils te disent 75%. Tu sais pas pourquoi, mais bon, tu vois.
Et puis, pour être tout à fait franc, j'ai fait le troisième acte, alors d'ailleurs, parlons des actes, Le troisième acte, c'est un jeu à part entière, tellement il est copieux. C'est incroyable, ce troisième acte, je l'ai trouvé formidable. Bref. Merde, j'ai perdu mon truc.
De quoi il parlait avant? Il a dit un truc, Vince.
Mais oui, je voulais rebondir sur ça.
De quoi, l'aventure, le fait que ce soit caché, les pourcentages.
Oui, non, pardon, c'est ça. Et le mode, il y a un mode facile, justement, qui pour le coup, moi-même, qui suis passé à côté d'un énorme pan de jeu, quand on en parlait sur le Discord, je voyais bien qu'il y avait plein de trucs que j'ai loupé et tout. Eh ben, en me foutant en mode facile, il y a des combats que j'ai dû refaire quand même, tu vois, c'est pas, mais au moins, j'ai avancé à mon rythme, sans avoir besoin de tout connaître. Et par contre, si je fais un deuxième run, quand ils sortiront une définitive édition dans X mois, comme ils avaient fait pour Divinity, etc., et que d'aventure j'ai envie de tester autre chose, volontiers que je le ferai en mode normal, mais en ayant déjà un énorme bagage de connaissances des règles du jeu en magasin.
C'est pour ça que je l'ai commencé en normal. Joris l'a commencé en difficile direct et il passe. Divinity Original Sin 2, je l'ai jamais fini parce que le boss de fin, impossible.
C'était trop dur.
Alors que là, t'arrives à le faire.
C'est un jeu qui est assez dense et qui te fait vivre ta propre aventure pour dire oh, c'est pas parce que j'ai joué en mode facile que j'ai l'impression de passer à côté d'un truc, parce que de toute façon t'auras joué 100 heures bordel genre c'est énorme.
Après comme on disait, il y a juste un déséquilibrage au niveau des classes. Certaines, tu prends un niveau, tu prends juste 10 HP, alors que les mages tu débloques plein de sorts. Donc le gameplay varie, mais ce qui est bien c'est que pour 100 pièces tu changes de classe, tu recommences from scratch.
Ça, par contre, c'est
je l'ai fait au moins une quinzaine de fois.
T'as du pognon,
donc tes compagnons qui ont une classe définie, il y en a une, c'est une claire, tu peux la prendre. Non, tu seras druide. Ok, ça colle pas du tout à ton lore, mais Balérin, tu vas être druide.
Tu vas être druide, ce sera très bien pour toi.
Je m'en fous. Voilà. Donc là, on a parlé un peu sur les classes, mais c'est quoi les combats? Comment ça se passe les combats? Donc, c'est très similaire à Divinity Original Sin 2. C'est du tactical. Chacun joue au tour par tour. C'est défini en fait par l'initiative qui joue en premier. Donc, si tu as un mec qui a une forte initiative, il va pouvoir mettre un petit coup de coutal par derrière là au début. Après, il y a quand même une façon de jouer. Il y a des tips qui font que tu gagnes beaucoup plus facilement tes combats. Déjà, c'est vraiment bien se préparer. Comme je disais, tu lances. Tu te lèves le matin, tu te prends tes popos, tu te mets tes boucliers, t'invoques 2-3 trucs aussi. J'ai joué beaucoup avec les invocations. C'est-à-dire que le matin, chacun invoquait un truc chacun.
Voilà.
On n'était pas 4, on était 7. Voilà. Déjà, ça marchait pas mal.
Au saut du lit.
Des élémentaires, des familiers.
Les combats, je dis, ils se ressemblent, mais en fait, chaque combat, c'est dans un. C'est dans un endroit différent. C'est comme un jeu de plateau. Ok, voici le plateau de jeu de combat. Il y a des étages, il y a toujours des trucs en l'air, il y a toujours des trucs qui pètent.
Je trouve que le level design est d'ailleurs assez exceptionnel.
Tu peux aborder les combats un peu comme tu veux. À un moment donné, je sais que dans un bâtiment, il y avait des je sais plus quoi, là, des. Bon, on va dire des gobelins. Et je sais que je pouvais soit les aborder parce que j'arrivais de plein fouet par la porte, mais on aurait été limité, soit parce que je faisais le tour des ruines, j'arrivais par le toit. Exactement. Et par le toit, mais tu leur tombes dessus sur la gueule direct. Et c'est deux éléments, mais des fois les combats, c'est par n'importe quel endroit t'arrives, tu peux les prendre en embuscade, les prendre de front.
Et ça fait tellement RP. C'est-à-dire que t'as un donjon, tu rentres par la porte principale, tu te prends les 50 gonflés qui te regardent,
mais qu'est-ce qui
à rentrer par la porte. Alors que si tu te fais chier, attends, c'est comme si tu parlais à un maître des jeux. Ah, on va faire le tour, voir s'il y a une entrée, tu fais le tour, t'as une petite entrée, une échelle, et tu leur tombes dessus.
Surtout que.
Et ça récompense le.
T'es récompensé des fois par l'exploration qui, en allant derrière, vont dire, il y a un de tes personnages qui a repéré une entrée secrète qui est cachée dans les fougères. Et voilà, après, que des trucs.
Persuasion. C'est-à-dire que là, ce qui est très drôle aussi, c'est jet de perception. C'est vache. Là, tu passes à côté d'un truc, jet de perception raté.
Ouais, donc tu sais qu'il y a quelque chose.
Putain, il y a quelque chose et tu sais pas
mais
quoi.
Personne n'a vu ce qu'il y avait.
Donc voilà, ça pousse à l'exploration, ça pousse à essayer de faire les combats de façon différente et c'est vraiment génial. Après, il y a des trucs comme Divinity, c'était super bien, système de combat. Tu sais, si tu fais une flaque d'eau et après que tu la glaces, il y a toujours ce même système.
Ouais, tout à fait.
Mais le problème, c'est que les mages, ils sont bridés de fou. C'est-à-dire que les mages, ils peuvent lancer que 3 sorts par jour de niveau 1. Il faut qu'après qu'il aille se coucher. T'as des mêmes sur Gale.
Au début, c'est vrai que ça va.
Qui dit un premier combat, ton mage, il est rincé, il peut plus rien lancer. Donc, faut aller se coucher. Bon, d'accord, on va se coucher, Gale.
C'est vrai qu'après, avec la montée en niveau, genre, là, je crois, ils sont niveau 8, mes persos, le Gale, il a. 4 sorts niveau 1, 4 sorts niveau 2, 3
d'accord.
Et le niveau
mais
4.
Mais le sort niveau 6 n'a 1.
Oui, je sais.
Tu le lances une fois. Mais après,
heureusement, ça commence.
Alors, il en a
sens
un.
Que là, il gagne en puissance.
Il en a un, sauf que j'ai une baguette qui permet de recharger un sort et j'ai un truc qui permet de lancer un sort gratos. Donc en fait, j'en ai 3. Mais parce que t'as ton stuff. Mais voilà, au début, c'est super bridant. Ouais, donc les classes intéressantes sont super bridées à cause de ça. Donc c'est un peu le côté dérangeant de Donjons et Dragons de trop se couler aux règles.
Ouais, mais après, c'est peut-être aussi pour l'équilibrage du jeu. Parce que bon, si t'as.
Tout à l'heure, tu
discutais sur ton. Oui, mais il n'y a pas que les dégâts, apparemment, si j'ai bien compris. Parce que s'il peut faire de l'eau et glacer tous les sols et que du coup, tous les gobelins systématiquement glissent et tous tes combats, tu les gagnes
les
pour ça.
Les gobelins.
Bon, bah, c'est.
Et toi-même.
Oui,
et
non,
toi-même,
tu vas. Oui, mais je sais pas, bon, mettons que tu vois, mais à chaque fois, tu peux tout le temps utiliser suffisamment de sorts pour te mettre dans des situations trop avantageuses.
Bah, c'est bien pour aider un peu. Si en plus, le côté, il y a un combat, tu t'es fait battre, ok, tu reviens, tu passes par derrière, là, tu t'es loin, donc si tu veux tricher. Ouais,
mais c'est... genre les mêmes qu'il y a sur Gale, donc le mage, genre, ça me rappelle littéralement quand je faisais du jeu de rôle, où genre moi je jouais guerrier parce que je savais que tout le temps je pouvais taper, mais le mec qui jouait le clerc avec nous, et que genre on savait qu'au début du combat, un combat dans un donjon, il avait lâché son sort. Pendant tout le donjon, il faisait rien. Hein. Genre, il était là, il fait, non mais moi j'ai déjà fait ma projectile magique, c'est fini. Hein. Il y a un jeu, je peux rien faire. Genre, mais c'est pour ça, c'est trop drôle parce que tu retrouves des sensations comme ça où ben quand t'es bas level, t'es pas pété du tout. Ouais, tu sers à rien en fait.
Point de vue technique rapidement, il y a moi j'ai eu quelques bugs d'affichage, je me sens
un petit peu
vieux,
ouais.
Mais à part ça, c'est plutôt correct. En plus, il y a eu 2 ans d'early access, donc ils ont fait les choses bien, ils ont eu le temps de tester. Les graphismes, c'est ok. J'ai les designs des armures. Il y a un moment, je prends un peu de recul, putain.
Ouais, pour le coup, quand tu changes des pièces d'équipement, tu le vois et c'est stylé. Hein.
Les dialogues sont animés parce que c'est du motion capture comme disait John. Donc voilà, comme on disait, enfin pour moi il y a un sentiment de liberté dans ce jeu. Ils ont essayé de créer un peu ce que ils ont essayé de recréer ce que tu ressens quand tu joues à un jeu de plateau. Tu peux faire ce que tu veux, t'as 15 façons de gérer les situations et ça je trouve ça fou. On se rend compte du taf de fou qui est fait sur les imbrications, etc., sur les voix, sur le doublage. Ajouter à ça une superbe BO, ouais, comme disait avec Nico, il y a le combat contre Raphaël, un démon. La musique, elle commence à s'emballer. T'as carrément le méchant qui chante par-dessus sur la musique.
C'est extraordinaire,
et tout.
Franchement.
Ah, tu te prends un petit coup de. Le combat est incroyable. Mais par contre, je ne m'attendais pas à un tel succès. Mais quand vous voyez, vous avez un studio qui fait tout pour faire un bon jeu. Il l'a dit, nous, on veut faire le meilleur jeu possible. Il ne met pas de transactions. Il fait un jeu fini. Il n'y aura pas de DLC. Ils prennent leur temps. Ils prennent 2 ans d'early access. Et c'est des gens passionnés. Tu vois, qu'ils adorent ce qu'ils font. Ben, on voit que la communauté leur rend bien. Je pensais pas que leur rendrait aussi bien.
Même, tu vois, là, ils l'ont sorti, il y avait des défauts techniques. Patch sur patch sur patch, là, ils sont en train de tout stabiliser.
Là, il y en a qui arrivent encore.
Voilà, t'avais des jeux qui avaient autant de hype, c'est comme Cyberpunk, tu vois, mais voilà, eux, ils ont dit non, s'il faut plus de temps, 2 ans d'early access, ok, ils avaient des défauts, mais ça restait des trucs.
Après, je trouve qu'il y a vraiment un truc, c'est que, je vois pas pourquoi je jouerais à un autre CRPG de ma vie.
Ah là, t'es tranquille pendant. Oh, ouais, même limite, tu le recommences.
C'est ultime. Peu. Ouais, à la limite, je le recommence dans 2 ans quand j'aurai un peu oublié.
Mais juste pour avoir une nouvelle histoire.
Ouais.
Ouais,
Ou alors, ils sortent le même dans l'espace, mettons, tu vois.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Même moteur dans l'espace, allez, je prends.
Ou alors,
il y en a un qui sort bientôt, là, comme ça, qui sort.
Peut-être. Ouais.
Ou alors, t'en veux un qui sort plus light. Genre où t'as l'impression de pas être abreuvé de 1000 règles, t'as envie de te faire une expérience.
Ou peut-être
plus
ça,
light,
ouais.
Genre,
ouais, mais là c'est vraiment, enfin, c'est une
mais c'est
ultime de.
Mais on verra pas de sitôt un CRPG de cette taille parce que ils disent tout est démesuré parce qu'ils avaient les moyens et le temps.
Bon, c'est quoi ces RPG?
En fait, c'était pour dire que c'est les jeux de rôle papier, le système de jeux de rôle papier qui est adapté au computer. Donc le C c'est computer, donc c'est les jeux de rôle sur ordinateur. C'est pour ça qu'ils différencient des RPG classiques juste. Prennent des composantes de jeux de rôle pour en faire des jeux.
Et j'ai vu des tweets passer, et le tweet il était incroyable, où tu voyais certains dire que Baldur's Gate 3 faisait du mal à l'industrie, parce que du coup les gens ils vont s'attendre à des jeux trop bien finis et tout. Enfin, c'est juste l'inverse, on s'est trop habitué à des jeux
c'est
moitié
ça.
Finis. T'as les studios qui, au lieu de faire des jeux crush sur des jeux pour les sortir 6 mois avant qu'ils soient finis avec des microtransactions, etc. Non, eux, ils se sont dit, on va faire le meilleur jeu possible. On prend le temps qu'on veut, on fait le meilleur jeu possible.
Et en plus, le succès est au rendez-vous, c'est ça qui est super.
Exactement, et le succès, c'est comme Divinity Original Sin 2, il n'a pas eu le succès à sa sortie. C'est un truc, c'est sur 10 ans, et Baldur's Gate 3, déjà, il s'est bien vendu, mais comme on dit... Il n'y a aucun RPG qui va le battre pendant les 10 prochaines années. C'est pour ça que je dis que c'est le jeu de la décennie, parce que sur 10 ans, il n'y en aura pas un meilleur, je pense. Et il va gagner là-dessus, il va gagner sur la longueur, je pense.
Est-ce qu'il mérite une place au classement du GOTY cette année ou pas?
Je ne sais pas encore. Techniquement, tous les jeux dont tu parles sont dans tes GOTY.
C'est vrai. Tout à fait. Dans 2 semaines, j'en serais pas si sûr.
Et alors, qu'est-ce qu'on pense, les ploucs?
Ben oui.
Qu'est-ce qu'ils en planquent les poux? On a Smart Dodo. On en a des drôles en plus. Hein. Au cours de ces 2 dernières heures de jeu, j'ai réussi à séduire un ogre, déclencher une guerre civile, bénéficier d'une opération au cerveau d'un poète, manger plusieurs dizaines de vers du cerveau, embrasser un lézard. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner au jeu. C'est ça, c'était les deux premières heures de jeu. Instacoffé qui dit « J'ai possédé un garde et je lui ai fait ouvrir une porte contenant des araignées géantes. » Et j'ai observé ça depuis le toit, le chaos qui s'en suivait. Je suis entré par effraction dans un coffre-fort et j'ai dit au garde que c'était un enfant innocent qui l'avait fait. L'enfant est allé en prison. 10 sur 10. Et bon, je pourrais en citer des quinzaines comme ça.
Parce que c'est vraiment... En plus, c'est un jeu qui se prête extrêmement bien à l'anecdotique et à re-raconter. Ah bah tiens, moi, il m'est arrivé ci, moi, il m'est arrivé.
Exactement.
Ça.
Là, on en reparlait encore. Mais bien sûr. Chacun a vécu des trucs. Et dernier de Do Know What I'm Doing, jouez à votre façon. N'utilisez pas de guide. Ouais. Sentez le monde réagir à vos choix. Frappez les gens avec un salami.
Ouais.
Mais il dit extrêmement vrai. Il faut vraiment pas se brider. Il faut jouer comme on l'entend. Et le jeu retombera sur ses pattes.
Ça fait mal. Ça me fait du mal. Tu sais, de pas savoir le côté complétionniste. Envie de savoir toutes les fins, toutes les façons. Ouais.
Tu dois être tout exploré.
Tu peux pas.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce gros morceau. S'il en était de Baldur's Gate 3, mais qu'il méritait amplement. On va maintenant voir un petit peu ce à quoi on va jouer ces deux prochaines semaines. Maintenant que c'est dans notre dos. Je peux pas. J'ai des trucs dans le viseur. Ouais, petit pépin à l'allumage dans le viseur. Allez, assez rapidement, à quoi on va jouer d'ici fin septembre? Moi, j'ai deux jeux dont je voulais discuter. Il y a bien sûr la mise à jour de Cyberpunk qui arrive le 21 septembre avec l'extension le 26 que j'ai quand même bien envie de constater. Et le 22 septembre, il y a Payday 3. J'ai jamais aimé ni le 1 ni le 2. Pourquoi pas?
C'est bien vendu, hein. Pourquoi pas dépenser 40 balles pour
le Game Pass?
Il sera sur le Game Pass. Et non, il est sorti. Attends. Mais il n'est pas sorti. Ah non,
non, c'est le 22 septembre.
Désolé, ouais. Écoutez.
Oui.
Il y a Dune Spice Wars qui sort en version originale. C'est un peu une sorte de civilisation sur le film Dune. J'avais un peu joué, mais je vais peut-être y revoir ce que ça donne en version finie.
J'ai vu ça aussi, ouais. Ça.
Monster Hunter Now. C'est Monster Hunter sur iPhone et Android. Il y a un mélange de Pokémon Go, parce que c'est vraiment en mode à la verticale ou un peu côté complétionniste où tu vas battre des dragons, avoir des armes. Je me demande que ça Robin peut donner sur smartphone. Pourquoi pas.
John?
Moi, c'est plutôt dans le rétro et sur lequel je suis déjà, c'est mon jeu de dans deux épisodes. Ce sera Chant of Senar. Mm-hmm. Ça va, non, c'est une sorte de jeu un peu balade, exploration, enquête, où tu dois décrypter un langage dans un univers qui représente un peu la tour de Babel.
Ouais.
C'est passionnant. Ouais, pour l'instant, de ce que je fais, c'est passionnant.
J'ai entendu dire beaucoup de bien aussi.
Ouais, mais c'est très intelligent, en fait.
Mais on aura vraiment l'occasion d'en
parler. Oui, parce que là, je suis dessus en parallèle de Baldur's Gate. Donc c'est
juste, j'oublie, en septembre, le 15 septembre, donc ça sera sorti au moment de l'épisode, Baten Kaitos 1 et 2, qui sont remastered sur Switch. C'est des meilleurs JRPG. Scénaristiquement, je me suis pris une grosse claque.
Ouais, moi aussi.
Il m'a marqué
le plot twist, comment s'en remettre. Hein.
Voilà.
Et par contre, le seul truc, c'est que le 2, ils l'ont toujours pas traduit. Parce qu'à l'époque, il était sorti que en anglais, et là, il est toujours pas traduit.
Parce que j'ai jamais joué au 2. Il était que en anglais.
Ben. Ouais, ben, toujours. Hein, nickel. Merci Nintendo, hein. Vous avez raison, on n'est que des porte-monnaies.
Surtout Nicolas.
Surtout moi, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a fait quand on était pas devant nos écrans? Je peux pas. J'ai piscine. Je peux pas, j'ai piscine. Et quand Vincent n'était pas derrière son PC, il était dans sa voiture à écouter des podcasts. Mais qu'est-ce que t'écoutais donc?
J'ai écouté un podcast qui s'appelle Le Moyen-Âge dans tes oreilles. Et qui raconte des histoires de châteaux. Je refais pas, les gars, qu'est-ce que vous voulez. Et non, c'est un podcast super agréable, là, qui raconte des anecdotes sur des... Enfin, de manière anecdotique, plus ou moins, des périodes du Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge d'une manière assez large, hein, c'est-à-dire de 400 et quelques à 1400 et quelques, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est quand même, c'est sourcé, c'est assez sérieux. Des fois, il dit des trucs un peu en latin ou en vieux français, tu vois. Donc, c'est captivant. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter l'épisode sur Saint-Louis. Il y a des trucs sur l'image de l'ours au Moyen-Âge, comme quoi, à travers les âges, ça a évolué, l'impact de l'église, etc. Bref, il y a plein de choses. Il y a un truc sur les guerres d'Italie. Je me régale.
D'accord.
Si vous avez envie d'écouter et de vous cultiver sur cette période-là qu'on connaît pas forcément. Alors après, c'est très ethnocentré, hein. Même si c'est pas vrai, il y a tout un épisode sur la civilisation maya. Mmh. Mais c'est quand même super chouette.
D'accord. Mmh. C'est un dep ou ça vient d'une radio?
C'est un dep. Ouais.
C'est un dep. Non, c'est cool. Tant mieux.
Ça a l'air pas mal.
Très très bien.
Il y en a pour 15 heures de contenu pour l'instant.
J'ai bientôt fini d'ailleurs.
Comme 42 épisodes. C'est propre. John, toi, tu as regardé un film.
Le film Donjons et Dragons.
Mais ça alors.
L'honneur des volages. Et franchement, non mais ouais, donc je l'ai vu. Littéralement parce que j'étais curieux de ce film et parce qu'en plein BG3 je me suis dit vas-y, j'ai envie de me remettre un peu dedans et il fait du bien ce film.
Vraiment,
c'est un film sympa parce que comme tous les commentaires le disaient, t'as l'impression que c'est fait par des passionnés, joué par les acteurs, par des mecs qui sont aussi limite qui connaissent ce truc là et donc tu sens qu'ils prennent plaisir à jouer. Et en fait quand t'es en plein Baldur's Gate 3, ça commence pareil. comme dans n'importe quel Baldur's Gate ou jeu de ceux-là, les mecs sont en prison au début, ils s'évadent de prison.
Ouais, bah oui.
Et ouais. Le héros, c'est un ménestrel et une barbare. Et après, ils sont rejoints par un mage et une druide. Et genre, et pareil, genre, la druide, à un moment donné, elle se transforme en ours hibou. Mm-hmm. Genre, comme dans
le jeu.
En fait,
ouais.
C'est là, je me disais, c'est le jeu ou c'est le film? Et t'as
ils parlent de Baldur's Gate.
Ouais, ils parlent de Baldur's, ils y vont pas. Ils parlent de Padivert, qui est la ville de Neverwinter Night. Mm-hmm. Ils y vont aussi. Enfin, toutes les vraies refs à Donjons et Dragons, c'est pas juste on balance un truc comme ça. Non, elles sont là, elles sont purement genre, c'est vraiment bien représenté. Et quand tu connais un peu, tu dis oh ça, tu sais le même de DiCaprio qui dit this, genre comme ça il monte la télé. C'est ça toutes les deux minutes parce que genre quand t'aimes bien c'est cool et quand tu connais pas trop tu dis c'est divertissant parce que c'est
le film paraît très bien.
Ça
rigolo,
fait léger nanar quand tu connais pas et quand tu connais un peu bah franchement ça passe bien. Non franchement j'étais trop content
même,
de ça.
Moi je suis pas très connaisseur de cet univers là, je vais passer un super moment. Ouais. C'est pas un très grand film mais non. Effectivement il y a un petit côté fan service
c'est un fan service bien déroulé en vrai.
Ouais.
Voilà.
OK, William.
Alors moi je vais vous parler de Coffeezilla. C'est un youtubeur c'est un youtubeur, journaliste, enquêteur et lanceur d'alerte qui est spécialisé dans l'étude et la dénonciation des fraudes et malversations dans le monde. Et il a un petit truc niche qui marche très bien, c'est les crypto-monnaies. En ce moment, c'est-à-dire que il a fait plein de vidéos sur plein de gens et la série qui m'a fait regarder c'est de trois vidéos sur CryptoZoo, je sais pas si vous connaissez, c'est le projet de Logan Paul. Le projet de Logan Paul en fait qui avait lancé un projet avec de la crypto-monnaie, donc la CryptoZoo qui te permettait d'acheter des sortes d'animaux, des cartes d'animaux et des œufs. Que tu faisais, que tu craftais, qui devenaient des animaux et après tu pouvais les mélanger, qui te faisaient des nouveaux œufs et après ceux-là tu pouvais les revendre et te faire de l'argent. Sur le papier, ok, il fait un projet comme ça. Le concept a l'air cool, mais en fait, c'est un gros scam. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont mis des sous. Et justement, enquêteur, tu te dis, oui, c'est un peu un enquêteur sur YouTube. Non, il va quand même, il est allé faire des interviews avec des gens qui ont mis des sous et tout, faire avoir des informations d'un peu partout. Il y a des gens, ils ont mis 250 000 euros. Déjà, faut voir les gens qui mettent ça sur un jeu. Et en fait, ils ont acheté des œufs, mais tu peux pas les revendre, tu peux rien en faire encore pour l'instant. Et du coup, en plus, à la suite de cette vidéo, d'abord, t'as Logan Paul, il répond, ouais, t'es un salaud, il l'a poursuivi en justice le mec. Vidéo suivante, en fait, t'as Logan Paul, en fait, qui se rend compte que c'est plutôt vrai ce qu'il dit et il a donné des excuses et il a dit qu'il allait rembourser les gens qui ont mis des sous. Donc après, il a remboursé les gens qui ont mis des sous dans le jeu. Ouais. Il y a des gens qui ont acheté la crypto-monnaie. Tu pouvais acheter la crypto-monnaie à côté. Eux, ils ne sont pas remboursés. Parce qu'après, il te dit, Logan, justement, il y a une quatrième vidéo qui est sortie. Après qu'il a dit que tu allais rembourser, il dit, c'est bien, tu rembourses. Mais par contre, tu vois qu'ils ont acheté de la crypto-monnaie et après, ils ont sorti le jeu. C'est moyennement légal. C'est comme si tu ne peux pas... quand tu sors une crypto-monnaie, c'est illégal d'acheter de la crypto et après de la mettre sur le marché.
Ouais, d'accord.
Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis la monnaie sur le marché. Ils ont acheté l'argent. Par contre, ils ont annoncé le jeu après.
Ouais, d'accord, ok.
C'était moyennement légal. Et en fait, t'apprends qu'il y a un des mecs qui s'est barré avec l'argent et tout. Logan Paul, lui, il a encore laissé ses sous. Donc,
comment
Logan
Paul, il a pas jamais trop... ça.
C'est systématique avec la crypto-monnaie, quoi.
C'est ouf.
Mais c'est ça. Mais Logan Paul, lui, il se protège. En fait, il a pas le cul propre, mais il essaie de dire ça. Oui, c'est un mec qui s'est barré avec l'argent et tout. Enfin, déjà, finis ton projet. Tu peux finir ton projet. Il y a des millions.
J'aurais pas pu le voir venir.
Mais le pire, c'est que maintenant, les gens ont peur de ce mec, Coffeezilla. C'est-à-dire que, tu t'es fait Coffeezilla. Il y a vidéo sur toi. Il y a H.O. Speed, le black, là, qui arrête pas de crier, de sauter sur son écran. Il avait fait un partenariat avec Paradox. Et en fait, pareil, c'est un studio de jeux vidéo par crypto-monnaie qui est un peu bancal. Donc, suite à cette vidéo, Coffeezilla en a fait une, gros bad buzz et tout. Donc, maintenant, les gens ont peur de ce mec. Donc, faut faire attention au côté journaliste d'un mec un peu.
Sur YouTube, faut faire gaffe, tu vois.
Voilà, c'est donc vrai moi, faut prendre avec des pincettes, mais au moins, il a le mérite de faire bouger certains trucs.
Très bien, ça s'appelle donc Coffeezilla.
En plus, sur nous, c'est un peu notre le NFC, les crypto-monnaies, on aime bien ça.
Quand ça crache dessus, on aime bien. Et. Ainsi se termine notre épisode 53 de Coop et Canap. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme vous l'avez entendu en début d'épisode, on ne se retrouve pas dans un mois. Non, on se retrouve dans combien, Vincent ?
Deux semaines !
Dans combien, John ?
Dans deux semaines !
Dans combien,
deux semaines !
Let's go ! On se retrouve dans deux semaines seulement pour l'épisode 54. D'ici là, eh bien, merci de nous avoir rejoints. Si vous nous avez rejoints cet été, c'est très, très gentil. J'espère qu'on vous a bien accompagné pendant vos routes de vacances. Et de toute façon, quand bien même vous seriez en manque d'épisodes, eh bien, restez là, dans deux semaines, un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez à plein de choses et surtout, amusez-vous. Salut tout le monde.
Ciao.